Vous êtes sur RTL.
Bien sûr, Dominique Tenza, toute son équipe pour vous réveiller dans la bonne humeur. On est ravis de vous accueillir dans RTL Matin. C'est la version été, on va vous accompagner comme d'habitude, vous informer comme d'habitude, vous divertir aussi et mettre en avant ce lundi des sourires en version italienne, car oui, l'Italie a décroché au bout de la nuit l'Euro de football dans un pays, vous le savez, où le ballon rond est une véritable religion. L'Euro revient à Rome, les Italiens ont gagné, les Anglais ont perdu, comme toujours ou presque. Alors vous allez entendre des joueurs heureux, des fans aux anges, d'autres déçus. Nous serons avec Robert Pires, notre consultant maison, avec notre commentateur Philippe Sansfourche, pour savoir si ce sont les meilleurs qui l'ont emporté hier soir, si cet euro est synonyme de réussite, si le spectacle était au rendez-vous. Ils nous diront sans doute que oui, même si, c'est vrai, il a manqué qu'une seule chose, nos bleus de l'équipe de France. RTL Matin en version italienne. Buongiorno, ciao, benvenuto, a tutti, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et Isabelle Choquet qui m'accompagne et qui fait la moue pour mon accent italien. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et donc ce matin, l'Europe, on l'aime à l'italienne.
Oui, vous le disiez, l'Italie a remporté l'Euro de foot hier soir avec une victoire au tir au but sur l'Angleterre. Immense liesse populaire à Rome, incident à Londres avec des supporters anglais. Comment stopper la quatrième vague? Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir. En ligne de mire, la vaccination obligatoire pour les soignants, mais aussi l'extension du pass sanitaire. À suivre également le grand boom du déménagement, les Français bougent beaucoup cet été, le télétravail est passé par là. Djokovic, aussi fort que Nadal et Federer, il vient de remporter Wimbledon. Et puis les confidences de Catherine Deneuve à Cannes.
L'Euro sur RTL.
On la croyait affaiblie, l'Italie éternelle a donc renversé l'Angleterre hier en finale de l'Euro.
Ça avait pourtant bien mal démarré pour la nationale et qui avait encaissé un but dès la deuxième minute, mais le capitaine italien Leonardo Bonucci a égalisé en seconde période. La prolongation n'y a rien changé. Résultat, Philippe Sansfourche, il a fallu aller au tir au but pour arracher une victoire au bout de la nuit.
Oui, au bout du suspense et sous les averses londoniennes, avec le cœur et les tripes, la squadra Azzurra menait dès la deuxième minute de jeu dans la fureur de Wembley, un genou à terre mais jamais vaincu, porté par sa vieille garde de défenseurs Chiellini, Bonucci et un gardien en fusion, élu joueur du tournoi Gianluigi Donnarumma, vainqueur de sa deuxième séance de tir au but en deux matchs après l'Espagne en demi-finale.
C'est un rêve incroyable les amis, qu'est-ce que je peux dire, on est entré dans l'histoire, on le mérite parce qu'on a un groupe spectaculaire. Personne ou peu de gens croyaient en nous et à la fin on est là à fêter un grand titre de champion d'Europe.
Le deuxième de l'histoire après Rome en 68, l'Angleterre, elle, pour sa première finale d'un euro, ressort meurtrie, abîmée à l'image de son capitaine Harry Kane.
Les tirs au but, c'est la pire façon de perdre. Ça fait mal maintenant et ça fera mal pendant longtemps, bien sûr. Mais il faut apprécier ce qu'on a fait, apprécier tout l'amour et toute l'unité qu'on a pu insuffler pour ce pays. On doit juste passer à autre chose maintenant.
Et oublier la malédiction des finales d'euro jouées et perdues à domicile après la France en 2016 ou le Portugal en 2004.
Philippe Sansfourche, envoyé spécial d'RTL sur 7 euros. Pour les Italiens, c'est le deuxième sacre européen après celui de 1968. Mais celui-ci a une saveur particulière. Écoutez ce supporter très ému hier soir dans les rues de Rome.
C'est une rédemption, la rédemption d'une nation, de tant de gens. Une nation qui a souffert. Combien de temps on est resté à la maison? Et là, on sort, on a mobilisé toutes nos énergies. On a un groupe vraiment uni qui rassemble tout le monde en Italie, ici en ville. Et on a réussi à gagner. Ça va bien au-delà du foot. Tant de personnes ont souffert ici, ont perdu des proches, un travail. Et là, on se réjouit. Ce sont des belles choses qui nous rassemblent de nouveau.
Ce supporter italien au micro RTL d'Olivier Bonnel. Les Anglais, eux, ont noyé leur amertume dans la bière. Certains avaient commencé bien avant le match. Et d'ailleurs, des incidents ont éclaté juste avant la rencontre. Des dizaines de milliers de supporters s'étaient rassemblés autour du stade de Wembley. Certains ont réussi à entrer sans billets. D'autres ont commencé à jeter toutes sortes de projectiles sur les passants.
L'actualité de ce lundi, 7h03, c'est également l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce soir, Isabelle, 20h, intervention consacrée essentiellement à la crise sanitaire.
Oui, comme toute l'Europe, la France est confrontée à la menace d'une quatrième vague épidémique portée par le variant Delta, un variant qui se propage à grande vitesse. Il représente désormais plus de la moitié des nouvelles contaminations, Virginie Garin.
Oui, le variant Delta est en train de remplacer complètement le variant britannique. Il représente plus de 80% des cas en région Rhône-Alpes, en Corse, dans le Var, les Alpes-Maritimes et une grande partie de l'Aquitaine et même plus de 95% dans la Marne. Il se développe très vite et le taux d'alerte, le nombre de cas supérieur à 50 pour 100 000 habitants par semaine, est désormais dépassé, en plus de Paris, dans les Pyrénées-Orientales et Atlantiques et dans les Alpes-Maritimes. Partout en France, il est particulièrement élevé chez les 20-29 ans. Alors pour l'instant, cette reprise de l'épidémie n'entraîne pas de nouvelles entrées à l'hôpital. Il faudra attendre encore 15 jours, disent les scientifiques. En Grande-Bretagne, à cause du Delta, les hospitalisations sont reparties à la hausse, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que lors de la vague précédente. Les personnes en réanimation sont surtout des non-vaccinés ou qui n'ont aucune dose. Les autorités britanniques estiment que les vaccins ont déjà évité dans le pays 7 millions d'infections et 27 000 décès.
La vaccination qui apparaît donc comme la seule planche de salut, et ce soir la principale annonce d'Emmanuel Macron, ce sera probablement la vaccination obligatoire pour les soignants. Il est question aussi d'étendre le pass sanitaire, par exemple l'exiger à l'entrée des restaurants ou de certains événements culturels ou sportifs. Le conseil scientifique suggère aussi de nouvelles restrictions dans les territoires les plus touchés. Alors certaines communes ont anticipé, à Collioure par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, le masque est de nouveau obligatoire dans la rue depuis samedi. Stéphane, qui vient d'arriver d'Amiens, n'est pas inquiet, mais quand même un peu dépité.
Une inquiétude, je n'irai pas jusque-là. Maintenant, oui, effectivement, on se questionne sur la suite et malheureusement, j'ai le sentiment qu'on a, on fait partie des chanceux dans le sens où on est juilletiste. On va nous annoncer que le futur plus ou moins proche, ça va top. J'ai le sentiment que ça puisse dégrader assez rapidement et ouais. Sincèrement, je sens moyen. Moi, le vaccin, pour tout vous dire, j'ai fait que le premier parce que malgré tout, je suis jeune, donc j'ai pas eu le temps de faire le deuxième. Donc ouais, si demain je suis rebuté parce que j'ai pas mes deux vaccins, effectivement, je trouve pas ça top. Ouais.
Stéphane au micro RTL de Benjamin Pelsi. Dans le Nord, on connaîtra aujourd'hui les résultats de l'autopsie de Simon Guermont-Pré, ce jeune étudiant en médecine retrouvé mort la semaine dernière sur l'autoroute A27 à Saint-Guin-en-Mélantois. Le parquet a évoqué un décès après une soirée d'intégration à Lille. Un appel à témoins a été lancé. Le corps a été retrouvé sous un pont, mais les parents de Simon ne croient pas au suicide. Le jeune homme devait fêter ses 20 ans demain.
L'été, Isabelle, ce sont les vacances, mais aussi la grande saison des déménagements.
Oui, traditionnellement, les Français profitent de cette période un peu spéciale pour passer d'un logement à un autre, voire d'une région à une autre. Mais cette année, avec l'essor du télétravail et les confinements à répétition, ça prend des proportions assez incroyables. On est environ 40% au-dessus de l'activité de 2019. Et les déménageurs sont tout simplement débordés. C'est un reportage RTL de Nerissa Emani.
On va fermer le camion. À mon avis, on a fini.
À peine un camion refermé, Abdel doit se rendre chez le troisième client de la journée. Ce gérant d'une société parisienne de déménagement n'avait jamais vu ça. Son chiffre d'affaires a doublé par rapport à l'an dernier.
Juillet, c'est plein. Août, c'est plein. Le planning, il est plein. Il y a des clients qui nous appellent, on n'a pas la disponibilité. Il y a beaucoup de gens qui déménagent à ce moment, surtout ils quittent la région parisienne. Part dans le sud, à Bordeaux, à Toulouse, en Corse aussi, on a des clients qui partent en Corse.
Ce couple quitte Paris intramuros pour un appartement en région parisienne avec une terrasse et une chambre supplémentaire pour leur enfant.
On avait envie de pièces plus spacieuses pour pouvoir, en fait, par exemple, travailler. Et oui, les espaces verts. Oui. Il y a un parc en fait en bas de l'immeuble et des espaces verts dans la résidence.
Et les prix, peut-être, ça joue ?
Divisé par deux. Ah, c'est deux fois moins cher.
Fini donc la location. Pour la première fois, le couple sera propriétaire.
Un reportage RTL signé Nerissa Emani. À qui le tour ? Richard Branson a ouvert hier le bal des milliardaires qui partent dans l'espace. Le Britannique s'est envolé avec trois autres passagers et deux pilotes à bord de son vaisseau Virgin Galactic. Ils ont passé quelques minutes à la frontière de l'espace, à près de 100 km de la Terre, avant d'atterrir tranquillement au Nouveau-Mexique. Le 20 juillet, c'est Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, qui partira sur sa fusée Blue Origin en attendant Elon Musk.
Retour au sport avec le tournoi de Wimbledon, tennis bien sûr, remporté à nouveau par Novak Djokovic.
Le numéro 1 mondial a battu l'italien Berrettini en 4-7, sixième titre sur gazon pour le Serbe, le 20e en Grand Chelem, ce qui le met au même niveau que ses grands rivaux Roger Federer et Raphaël Nadal, Isabelle Langer.
Oui, à Wimbledon hier, Novak Djokovic est en effet entré encore un peu plus dans la légende. Il a écrit un nouveau chapitre de sa fabuleuse histoire. À défaut d'avoir l'amour du public et la popularité de Nadal et Federer, le Serbe chasse les records et veut laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. D'ailleurs, il ne s'en cache pas.
Je me considère comme le meilleur et je crois que je suis le meilleur. Sinon, je ne parlerai pas avec assurance de gagner des chelems et de faire l'histoire.
Dans deux mois à New York, Djokovic peut, s'il s'impose à l'US Open, réussir ce qu'aucun joueur n'a réalisé depuis 1969 et Rod Laver, boucler le grand chelem sur une année calendaire, c'est-à-dire gagner la même saison l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. S'il y parvient, Le Serbe sera alors seul sur sa planète avec 21 titres majeurs, un nouveau record.
Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Sur le Tour de France, ce lundi est une journée de repos, la deuxième depuis le départ. Les coureurs font halte dans les Pyrénées. Hier, c'est le grimpeur américain Sepkus qui s'est imposé dans la 15e étape à Andorre-la-Vieille. Tadej Pogacar n'a rien cédé, il est donc toujours maillot jaune. En revanche, ça ne s'arrange pas pour les Français. Le premier, Guillaume Martin, a perdu presque 4 minutes sur ses adversaires directs. Il chute de la 2e à la 9e place du classement.
Festival de Cannes 2021 sur RTL.
Et nous partons effectivement à Cannes, où était projeté ce week-end De son vivant, film d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve. Alors c'est pendant ce tournage que l'actrice a été victime d'un AVC. Le film lui-même traite de la maladie, de la fin de vie. Forcément, Catherine Deneuve en est sortie transformée.
Beaucoup de choses s'étaient passées pour moi dans un temps quand même assez important. Et puis il y a eu cette chose terrible qui est arrivée et qui a amené, si vous voulez, une situation par rapport à ce film, en plus qu'on avait commencé sur ce sujet. Donc ça a pris une dimension, une force et une puissance différentes et qui me font voir les choses différemment. Oui, ça fait quand même, pour moi, ça fait beaucoup les trois choses. Donc oui, c'est très très différent aujourd'hui, une perception très très différente. Mais c'est vrai, quand on a accompagné des gens, comme on a eu malheureusement l'occasion, on avait déjà avec le sida, c'est déjà quelque chose de très douloureux. Mais là, on est à une charnière terrible qui touche absolument tout le monde. Donc c'est très impressionnant. Voir les relations qu'on a avec les gens, même ceux qu'on ne connaît pas, même sans s'en parler, il y a quelque chose de très très différent entre les gens. Oui, très différent.
Catherine Deneuve au micro RTL de Stéphane Boutsock. Et aujourd'hui, une ribambelle de stars hein, sur les marches du palais du festival, du palais des festivals, avec la projection de The French Dispatch de Wes Anderson. C'est l'un des films les plus attendus de cette édition. Le casting réunit Frances McDormand et Benicio Del Toro, mais aussi les Français Mathieu Amalric et Léa Seydoux. Puis on attend aussi Bill Murray et Timothée Chalamet, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, il y aura du beau monde, évidemment. On sera à Cannes tout à l'heure dans la version été de Laissez-vous tenter avec Stéphane Boutsock, notre envoyé spécial. Il sera 9h moins le quart. Châteaubriant pour les courses.
Et les pronostics de Jordan Philippi, l'As, le 6, le 3, le 9, le 15, le 4 et le 5. As, 6, 3, 9, 15, 4, 5. La dernière minute de Jordan, c'est l'As Capta.
Et on a tous les pronos, bien sûr, hein, sur l'appli RTL. Merci Isabelle, on vous retrouve à 8h tout à l'heure.
Sans faute, à tout à l'heure.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Un été en France, ce sont des découvertes, des promenades pour vous durant ces congés estivaux. Nos guides sont nos correspondants et nous faisons étape ce matin dans le Bordelais sur une route bien connue en Gironde, la départementale 2, idéale pour découvrir les prestigieuses appellations viticoles du Médoc et parfaite d'ailleurs pour l'onotourisme, un type de vacances de plus en plus prisé. Bonjour Denis Grangeau.
Bonjour.
Vous nous invitez donc à un voyage dans les vignes et les caves de dégustation d'élixirs parmi les plus réputés dans le monde. Hein.
Oui, et c'est sans doute une des routes départementales les plus recherchées par les amateurs de vin, la D2. Dit tout, comme disent les Anglais, elle serpente sur 50 km au milieu des châteaux et des grands crus classés prestigieux du Médoc. Alors, on va faire un premier arrêt à Pauillac, près du château Lingebage, dont le propriétaire a redonné vie à un hameau au pied des vignes, Stéphane Elias, directeur de l'hospitalité chez Lingebage.
Bah, c'est un petit quartier qui avait été un peu délaissé de ses habitants à la fin des années 90. On a essayé effectivement de recréer quelque chose qui puisse offrir un service un peu complet, si j'ose dire.
Il y a des ruelles pavées, une location de vélo, une boutique déco, une brasserie et une magnifique cave pour déguster. Et loin des clichés et des idées préconçues sur les grands crus classés, ici, on déguste vraiment en toute simplicité, mais avec modération.
Non, il n'y a pas d'esbrouf, on est simple, on est dans une région viticole avant tout, une région agricole où on fait du vin, encore une fois, avant tout, c'est notre premier métier. Donc l'idée, c'est de le faire avec simplicité. En plus, propriété familiale, il y a encore quelques propriétés familiales qui subsistent dans la région et qui ont à cœur d'insuffler cette philosophie familiale, quoi, finalement, bienvenue à la maison. Quoi.
À quelques kilomètres de là, changement radical de décor et d'ambiance, bienvenue à Margaux, le village cher à Ernest Hemingway. Margaux, avec le château Marquis d'Alem, les propriétaires franco-chinois ont donné à ce lieu une architecture totalement singulière et unique dans la région. Marjolaine Maurice de Conin dirige cette propriété.
À l'extérieur, le bâtiment, il est à Margaux, calé sur cette architecture, plus 18e que 19e. Mais à l'intérieur, oui, on met du vrai archinon. On est en fait devant ce qu'on appelle une porte de lune. Dans le cuvier qu'on va aller voir ensuite, vous avez un dragon qui a des écailles. Je ne vais pas vous proposer de les compter, mais on pourrait.
et sur le toit de cette propriété qui jouxte le célébrissime château Margaux, le spectacle continue quand on laisse promener son regard.
De pouvoir passer des bateaux sur la Gironde, parce que vous voyez, on voit la ligne d'arbres, et quand il y a les grands paquebots qui repartent de Bordeaux, vous les voyez passer, vous avez littéralement l'impression qu'il glisse sur les arbres.
Alors, pour tout savoir sur la découverte du vignoble médocain, il suffit de prendre contact avec l'office du tourisme Pauillac Vignoble. Il recense toutes les expériences œnotouristiques proposées par les châteaux le long de la jolie route départementale numéro 2, juste à la sortie de Bordeaux.
Merci Denis pour l'invitation. Denis Grandjouin, un été en France dans le Bordelais ce matin, c'est à retrouver en podcast évidemment sur l'appli RTL. 7h15, bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux. Dans un instant, on vous emmène sur les Champs-Élysées car ça se prépare, le défilé du 14 juillet. Répétition en cours, on est sur place juste après ceci.
RTL Matin jusqu'à 9h15 avec Stéphane Carpentier.
Merci de votre fidélité. On vous offre donc ce matin, comme promis, un gros plan sur le 14 juillet et son défilé. Mercredi, il aura bien lieu pour la fête nationale sur les Champs-Élysées, malgré le virus. Et tout cela se prépare, répétition en cours depuis deux petites heures. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est en cours et c'est en musique manifestement.
Oui, vous arrivez au moment de la Marseillaise. Vous savez Stéphane, si vous aimez la musique militaire et les réveils matinaux, bienvenue place de la Concorde à quelques jours du défilé. Treillis, uniforme impeccable, on peaufine, on ajuste, on surveille, on contrôle les derniers détails parce que évidemment, ce moment du passage devant la tribune présidentielle bleu, blanc, rouge au pied de l'obélisque est le moment le plus important quasiment de l'année pour ces militaires. Les détachements se succèdent sous la fine pluie parisienne. Ils suivent précisément, vous savez, les lignes bleues et rouges peintes au sol exprès pour le défilé. Alors, tous les défilants ne sont pas présents aujourd'hui. Hein. Ce matin, ils se sont succédés. Ces derniers jours, là, il y a ce matin environ 20% des participants. L'idée, c'est qu'un maximum de militaires participent dans deux jours et puissent toucher au moins une fois le sol des Champs-Élysées avant le jour J. Ça peut paraître anecdotique, mais écoutez le colonel Méreuse du 31e régiment du génie de Castelsarrasin. Le sol des Champs-Élysées ne ressemble pas au terrain d'entraînement.
Les deux compagnies qui représentent le régiment sont arrivées depuis mercredi en Ile-de-France et on s'entraîne tous les jours. Donc, dans l'ensemble, on est prêt. Le stress, non, il n'y a pas de stress, il y a de l'enthousiasme, il y a l'envie. Et ce matin, on a l'opportunité donc de pouvoir toucher les Champs-Élysées parce que ce n'est pas exactement le même terrain que celui qu'on a là où on s'entraîne, qui est beaucoup plus plat. On essaye d'être tous unis, d'être bien alignés. Et c'est vrai que vous voyez les Champs-Élysées, comme je disais, c'est une avenue qui a vécu depuis des siècles. Il y a des pavés qui font un peu bouger les pieds, le terrain est bombé. Et donc, si on veut que ce soit beau, on a besoin de s'être préparé, de ne pas le découvrir le jour J.
Voilà, c'est aussi l'occasion de s'assurer que tout le monde a bien compris les règles, à respecter les distances, les cadences, et ça c'est l'adjudant-chef Thierry qui en est responsable. Il est au protocole et on peut quand même considérer qu'il est expérimenté puisqu'il assure son 29e défilé.
Tout est quasiment réglé. Maintenant, nous sommes dans le petit détail. Nous sommes à la radio, mais vous pouvez voir sur les Champs-Élysées, nous avons des lignes de marquage, lignes rouges, lignes bleues. Et en fait, chaque chef de détachement et chaque détachement sait exactement qu'il doit se trouver à 50 mètres de l'unité qui la précède. L'emblème doit se trouver exactement à 6 mètres du chef qui est devant, et etc. C'est pour avoir justement ce flux parfait. Et ça, nous le surveillons de très près.
Voilà, tout est surveillé de très près à 48 heures désormais du vrai défilé.
Restez avec nous Brice, depuis les Champs-Élysées, je vous propose un instant de nous immerger avec les 70 sous-mariniers de l'Émeraude. C'est l'un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque que compte la Marine nationale. Ils vont défiler dans 48 heures à l'occasion d'un hommage aux soldats invisibles, car ce sont des combattants qui s'entraînent dans l'ombre, dans la culture du secret. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour à tous.
Hugo, vous avez assisté à un entraînement de l'équipage de l'Émeraude depuis leur port d'attache, c'est-à-dire la base sous-marine de Toulon. Du coup, on vous suit.
Oui, sous quelques néons blafards, une quinzaine de sous-mariniers s'activent dans une pièce de 20 mètres carrés.
Alors ici, on est dans le simulateur de lutte anti-sous-marine. Donc globalement, c'est pour former les équipes à travailler contre d'autres sous-marins, donc des sous-marins adverses principalement.
Et voici l'ambiance que l'on peut retrouver dans un sous-marin. Malgré ses missiles Exocet, ses mines, ses torpilles d'une dizaine de mètres filo-guidées, l'Émeraude est aveugle. À 200 mètres de profondeur, toute information passe par les sonars, par les oreilles des hommes du commandant de corvette Quentin.
On a une crosse bonne, elle est là de maintenant à 4 mm.
Sous l'eau, il y a énormément de bruit.
des bruits de nature biologique, météorologique, des bruits de nature tellurique. Donc la classification, elle se fait principalement à l'audio. On a des personnes entraînées à classifier les différents bruits qu'on entend.
Oui, on voit la personne avec le casque par exemple.
Oui, les deux personnes que vous avez là-bas sont des veilleurs. Ils ont un casque qui leur permet de dire « Ah, ça c'est probablement un bâtiment de commerce, ça c'est probablement un sous-marin, ça c'est probablement une baleine. »
L'émeraude revient d'une longue mission au large de l'île de Guam, un caillou perdu dans le Pacifique. 5 mois de voyage, 45 jours sans escale pour des exercices avec les alliés américains et australiens. Avant chaque appareillage, l'équipage s'astreint à un nouvel entraînement de 6 semaines pour les réflexes, la cohésion de la bordée. En quelques secondes, ils doivent distinguer un navire de commerce d'un sous-marin ennemi.
C'est ça, en fait, on monte crescendo, donc c'est-à-dire qu'au début de l'entraînement, globalement, la situation elle est assez, ce qu'on appelle une situation calme, c'est-à-dire qu'on va mettre 2-3 bateaux, pas plus. Et au fur et à mesure, on va complexifier les choses, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de commerce, donc c'est-à-dire qu'ils risquent de perdre le contact. Et on peut également mettre un deuxième sous-marin pour essayer de les déstabiliser et pour un petit peu, on va dire, essayer de leur faire perdre de vue l'objectif de la mission.
Enfin, je sais pas, t'as mis un peu plus de temps que d'habitude à te mettre dans la plateforme. Et du coup, ça a pénalisé toute la chaîne derrière. Quoi.
Dans cette guerre silencieuse, le secret est roi. Contrairement à d'autres pays, les sous-marins français n'émettent aucun son, aucune onde pour ne pas être contre-détectés. À eux de repérer en premier les bâtiments adverses, ce qui en fait l'une des forces sous-marines les plus acérées au monde.
Alors Hugo, ils sont 70 dans cet équipage de l'Émeraude, vous nous l'avez dit, avec de multiples missions. La question qu'on se pose, c'est comment se passe la vie à bord? On imagine peu de distractions.
Eh bien, c'est focus sur la mission. Hein. Pas d'alcool dans les zones de vie, des cigarettes seulement en extérieur, donc c'est plutôt rare. Une douche tous les 2 ou 3 jours et des contacts par mail avec la famille. 10 jours minimum après le départ, sans photo ni mauvaise nouvelle. Pas de débat sur la vaccination non plus entre sous-mariniers. Depuis plusieurs mois, tous se font piquer avant de plonger, car comme nous, la Covid et ses désagréments ne les ont pas épargnés.
C'est vrai qu'on a l'habitude en étant sous-marinier d'être confiné, parce que c'est un peu notre cœur de métier. Quand vous partez 5 mois... Bien, vous rajoutez 2 semaines avant un confinement, souvent à Toulon, c'est-à-dire proche de votre famille, mais sans pouvoir l'avoir. Donc c'était assez difficile pour les marins. Vous pouvez pas vous cacher à bord. Vous pouvez pas vous isoler dans un coin et pleurer dans votre coin. Donc quand il y a quelqu'un qui va pas bien, comme on travaille quand même tout le temps ensemble, on est tout le temps côte à côte, on le détecte très vite et on fait en sorte de l'accompagner pour que ça aille mieux.
Les soldats de l'Émeraude remontent donc à la surface à l'occasion du défilé annuel des armées. C'est peu fréquent qu'ils soient invités sur les Champs-Élysées. Ce sera une première en tout cas pour le timonier Romain qui s'occupe des cartes à bord.
C'est une fierté déjà. C'est une fierté de faire ce défilé et de représenter notre équipage et notre nation. Depuis tout petit, je regarde le 14 juillet et là pour la première fois je vais le louper. Pour une bonne raison, ce sera moi qu'on regardera la télé. Être pour une fois sous les feux des projecteurs alors que d'habitude on est sous l'eau invisible, ce sera un nouveau défi et j'ai hâte.
À leur côté, l'équipage du premier sous-marin nouvelle génération Barracuda, c'est l'avenir des submersibles français capables de tirer des missiles à plus de 1000 km, des innovations de combat qui ont aussi un coût, plus de 9 milliards d'euros pour construire 6 nouveaux sous-marins censés nous défendre pour encore une quarantaine d'années.
Merci Hugo Hamelin, immersion dans l'Émeraude, donc un des sous-marins nucléaires d'attaque de la marine française, ils vont défiler mercredi. Brice, retour sur Terre, sur les Champs-Élysées pour les répétitions. C'est jusqu'à quelle heure ce matin? Est-ce que ce sera tout pareil demain?
Alors, 8h, fin de la répétition, parce que le principe, c'est aussi de ne pas bloquer la circulation parisienne pendant des heures, même en plein mois de juillet. Et ce sont les dernières répétitions ici sur les Champs. Il y en aura encore cet après-midi et demain, mais sur une base militaire à Satory dans les Yvelines, parce que jusqu'au dernier moment, les troupes répètent comme sur les Champs, mais pas sur les Champs. Et puis, ce sera à Brétigny-sur-Orge pour les véhicules. Et si la météo le permet, il y aura une dernière répétition aérienne au-dessus de Paris en début d'après-midi aujourd'hui à 14h, même si pour l'instant, le ciel est quand même bien bas et bien gris au-dessus de la tribune bleu-blanc. En rouge ici sur la place de la Concorde.
Merci Brice Dugénie, spécialiste défense à RTL. Répétition avant le grand jour, le défilé du 14 juillet que nous suivrons évidemment mercredi sur notre antenne. Il est pile 7h24 en ce lundi. Vous voulez une pépite musicale? Vous restez là et tout ira bien. À tout de suite.
RTL Matin. Stéphane Carpentier.
C'est l'heure de notre pépite musicale, on va se faire du bien aux oreilles. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et du bien avec quel choix?
Alors dans la catégorie qu'on aime bien, rendons à César ce qui lui appartient. Intéressons-nous à cette chanson.
Regardez,
Gabriel, absolument indissociable de Johnny Hallyday, titre à l'origine de 1976, extrait de l'album Derrière l'amour. C'est une des chansons que Johnny a le plus chanté sur scène. On est quand même très nombreux à avoir levé les bras et croisé les poignets, hein, je vous ai vu faire d'ailleurs une fois, pour mourir d'amour enchaîné. Johnny, et c'était sa force, a fait de cette chanson une évidence. Gabriel est devenu un personnage incontournable de sa tribu. Et pourtant, Gabriel n'était pas à lui. Ce titre est né à 15 000 km de la France, en Australie, sorti tout droit de l'imagination d'un auteur-compositeur-interprète qui s'appelait Tony Cole. Sur son premier album, il n'en a fait que deux, sorti en 1972, on trouve la chanson « The King is Dead », le roi est mort, qui 4 ans plus tard deviendra la chanson de Johnny. C'est notre pépite du jour, « The King is Dead » de Tony Cole, la version originale de Gabriel. Gabriel, you're easy on my eyes, but that's part of your deception. Hard to tell. Could be what you are and what you show has no connection. Now you got the ways of a child, but it's just to confuse me. And while I keep trying to find you, you're trying to lose me. Lady of the Tower, won't you come down? Alors, je ne connais pas, hein, cette version. Voilà, Gabriel, elle vient de là, elle vient de ce morceau, The King is Dead, de l'Australien Tony Cole. C'est tout simplement parce que les droits de cette chanson en anglais étaient libres qu'un directeur artistique s'en est emparé, l'a ramenée en France, elle n'a pas coûté cher. Les auteurs Longue Crise et Patrick Larue ont adapté le texte en français, ils ont gardé le prénom Gabriel, parce que vous entendez, il dit Gabriel, et Johnny, bien sûr, a fait le reste.
Et s'il vous plaît, vous supprimez la vidéo de moi avec les bras levés et les
poignets. Je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je suis à la recherche.
J'en doute pas. La pépite Anthony Martin.
Fidèle au poste, nos grosses têtes avec le meilleur de la saison cet après-midi dès 15h30, orchestré bien sûr par Laurent Ruquier.
Ah, je fais des progrès sur Internet, tu ne peux pas imaginer.
Ah bon, racontez.
Ah, il s'est allumé dans l'ordinateur.
Je fais Internet sur le téléphone, moi.
Wow. Ah oui,
j'ai un téléphone de luxe, tu sais. Que...
Racontez comment vous faites Internet,
smartphone.
Comme vous dites.
Smartphone. Eh ben, tu mets tout là, comme ça, et puis là, tu vois, mettez le nom, alors t'appuies, voilà. Tu mets le nom, il te repasse des trucs que tu as demandé il y a 10 ans. C'est marrant, hein. Je demande des trucs, par exemple, je dis Daesh. Je fais une mauvaise manœuvre. Georges Guettari est né en le et c'est marrant. C'est marrant quand même, comme ton époque te colle à la peau. Hein.
Les grosses têtes, régalez-vous 15h30, 18h et en podcast via l'appli RTL sur vos tablettes et vos smartphones.
RTL, toujours avec vous.
C'est Louis Bonin qui a choisi les musiques du matin, rien pour vous. Ça va, Louis ?
J'essaie de compenser un peu la météo. Bonjour Stéphane.
Bon, vous nous aviez dit en fin de semaine, ça sera agité, c'est agité.
Oui, c'est agité, c'est ça. On a eu une petite accalmie hier, fallait en profiter parce que là, c'est reparti, puis c'est bien reparti. Hein. Là, il y a de fortes pluies en ce moment entre le Massif central, l'est de l'Île-de-France, la Bourgogne. Il y en a un peu sur la Bretagne, un peu dans l'extrême nord. Bref, de toute façon, la menace existera partout au fil des heures avec donc des passages nuageux, des averses, parfois accompagnés d'orages, des orages plus fréquents cet après-midi. Alors entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, il y en aura un peu plus près des Pyrénées, entre le Massif central et la région Rhône-Alpes, avec l'attention peut-être de fortes pluies. Et à l'inverse, peut-être un peu plus d'éclaircies. Là, je pense à ceux qui sont en bord de mer, près de l'Atlantique, vous aurez peut-être un peu plus de soleil et un peu moins d'averses. Et puis entre la Côte d'Azur et la Corse, soit toujours les mêmes. Là, vous aurez du grand soleil, mais du vent quand même. Et puis côté température, ben évidemment, ça repart à la baisse. Hein. 18 à 20 degrés, on n'atteindra pas les 20 degrés en Bretagne ou encore près de la Manche. 20 à 23 degrés seulement dans toute la moitié ouest, encore 23 à 26 degrés dans l'est avant l'arrivée des orages et 26 à 31, toujours pour les mêmes là près de la Méditerranée.
3-4 jours comme ça encore ?
Oui c'est ça, 3-4 hein jours c'est bien dit jusqu'à mercredi et à partir de jeudi. Bon, cette fois, ça a l'air de se confirmer. C'est-à-dire que je ne reporte pas l'amélioration de jour en jour. Donc, normalement, la fin de semaine devrait être beaucoup plus agréable, notamment le week-end prochain, enfin estival au nord comme au sud.
Vous savez tout grâce à Louis Baudin. Très bon réveil. Merci d'être là. Dans un quart d'heure, c'est Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui sera l'invité de RTL, l'invité de Benjamin Sportouche. Il est 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h30, le Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Pour tout entendre de l'actualité de ce 12 juillet.
La felicità des Italiens ce matin après leur sacre en finale de l'Euro de football pour la deuxième fois de leur histoire, après avoir vaincu les Anglais qui jouaient à domicile. But inscrit par les Free Lions après 2 minutes de jeu avant l'égalisation de Leonardo Bonucci à la 67e. Et il a fallu en arriver au tir au but après les prolongations. 3 tirs au but à 2 pour la nationale et l'explosion de joie des supporters. 3 ans après avoir manqué leur rendez-vous avec le mondial. Écoutez ce supporter qui buvait du champagne sur une place de Rome hier soir.
On est très heureux, on l'attendait depuis si longtemps, c'est une revanche. Et surtout, on a posé les bases pour le prochain mondial. C'est une équipe très jeune avec des gamins déterminés qui savent jouer au foot. Et je suis sûr qu'on fera bien l'an prochain. C'est une victoire vraiment méritée, un groupe fantastique qui, à mon avis, marquera l'histoire de ce pays pour encore un moment.
Ce supporter de la nationale au micro d'Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. Les Anglais, eux, en rêvaient, mais chanter « It's coming home » n'a pas suffi. Harry Kane et ses coéquipiers ne mettent pas fin à 55 ans de disette sans titre international. Alors hier soir et ce matin, c'est la gueule de bois à Londres. Matthew est reparti chez lui, enveloppé dans un drapeau anglais, la tête baissée.
Je crois que je n'ai jamais ressenti ça. L'excitation de voir un penalty sauvé, le crève-cœur de voir l'Italie sauver le dernier, ça fait mal. Je nous ai vus perdre la demi-finale il y a 3 ans et ce soir je nous vois perdre la finale. Le football, c'est de la douleur. Mais nous méritons notre succès et il y viendra. Il y a des gens qui crient « Oh, l'Angleterre est malchanceuse », mais c'est pas grave. Notre heure viendra. Ce soir, je rentre chez moi et je n'ai jamais eu aussi mal. Mais quand on gagnera, ce sera d'autant mieux. Je ne pense qu'à l'année prochaine quand je regarde notre équipe.
Mathieu au micro de Marie Billon, correspondante de RTL à Londres.
Et à 8h20, soyez là, soyez à l'écoute tout à l'heure, puisqu'on se demandera ce qui a manqué précisément aux Anglais dans cet Euro et pourquoi les Italiens finalement l'ont emporté. Avec Robert Pires, le consultant maison, RTL M6, il sera avec nous en direct depuis Londres et associé à Philippe Sansfourche, notre commentateur. Rendez-vous donc 8h20 tout à l'heure. L'actualité de ce lundi, c'est également un conseil de défense sanitaire à l'Elysée.
Il doit acter les mesures qui seront annoncées ce soir par Emmanuel Macron à 20h. Face à la propagation du variant Delta, le chef de l'État devrait officialiser la vaccination obligatoire pour les soignants. Mais pour Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, ce serait tout simplement un très mauvais message.
On est assez choqués de cette instrumentalisation de la vaccination des soignants. On a l'impression que les héros d'hier sont devenus des vilains petits canards. Ça lance un message. Demain, les gens vont dire « Bah oui, vous avez été vacciné, mais pas de votre plein gré, vous étiez obligé. » Donc c'est assez contre-productif au final. Discréditer l'ensemble d'une population de cette manière choque profondément les soignants.
Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat des professionnels infirmiers avec Valentin Boisset. Le chef de l'État est donc attendu au tournant pour éviter une quatrième vague meurtrière. Et c'est bien la vaccination qui sera au cœur de son intervention ce soir, Marie-Bénédicte Allaire.
La vaccination obligatoire des soignants devrait être l'une des principales annonces sanitaires. Le projet de loi en préparation pourrait être présenté en Conseil des ministres fin juillet pour un vote à la rentrée. L'obligation sera-t-elle élargie à d'autres professions en lien avec les personnes fragiles? Cela pourrait faire l'objet d'amendements lors du débat parlementaire, imagine un interlocuteur d'Emmanuel Macron. Pas d'obligation pour l'ensemble de la population en revanche, elle serait contre-productive aux yeux de l'exécutif. Mais le pass sanitaire sera sans doute étendu, avec une jauge abaissée pour les spectacles et peut-être en l'exigeant dans de nouveaux lieux. Et pour tenter tout de même de se projeter dans l'après, Emmanuel Macron n'oubliera pas d'évoquer le plan de relance. C'était son intention initiale, avant que le variant Delta impose sa réalité. Et puis, bien sûr, il est très attendu sur les retraites. Repousser l'âge de départ dès la fin du quinquennat, nombre de marcheurs le lui déconseillent, mais il pourrait, selon l'un d'eux, prendre une position médiane pour qu'on ne lui reproche pas son inaction.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Et elle pourrait être concernée justement par la vaccination obligatoire, ce sont les sages-femmes.
Mais elles ne sont pas assez nombreuses dans les maternités. Certaines ont même dû fermer leurs services, comme au Sable d'Olonne. Les syndicats et l'Ordre national alertent sur une pénurie pour cet été. En cause, les sollicitations pour d'autres actes, comme par exemple la pose de stérilet. Mais ce n'est pas la seule raison, selon Anne-Marie Cura, présidente de l'Ordre national des sages-femmes.
Il y a la rémunération au regard de notre responsabilité et de notre profession médicale qui n'est pas assurée. Même les étudiantes qui viennent de sortir, ils ne veulent pas aller travailler à l'hôpital. Elles débutent dans les hôpitaux à 1 600 euros après 5 ans d'études, après le bac. Il faut arrêter. Bon, moi, je peux vous dire qu'il y a 48 heures, j'étais avec monsieur le ministre. Il était d'ailleurs en difficulté pour faire des solutions. Ben, je lui ai dit, moi, je peux vous en trouver une, monsieur le ministre. Tout de suite, proposez une rémunération correcte pour l'été et vous allez trouver des sages-femmes dans les hôpitaux.
Anne-Marie Cura, présidente de l'Ordre national des sages-femmes, au micro de Sophie Jousselin.
La grande boucle.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
La victoire hier de l'Américain Sepp Kuss en solitaire sur la 15e étape du Tour de France en Andorre. Le maillot jaune reste sur les épaules de Tadej Pogacar et le Français, Guillaume Martin, a lui perdu 4 minutes au général, passant de la 2e à la 9e place. C'est repos aujourd'hui, mais vous allez voir avec Christian Laborde qu'il s'en passe des choses, les jours de repos.
Les journées de repos ne sont pas toujours de tout repos, surtout lorsque Jacques Anquetil festoie. 5 juillet 1964, journée de repos à Andorre-la-Vieille. Jacques Anquetil est enfermé dans sa chambre. Il dit qu'il va mourir. Il ne fait que répéter ce que le mage Béline a écrit dans France Soir. Anquetil trouvera la mort du côté d'Andorre. Le téléphone sonne à l'hôtel. C'est Radio Andorre, pour Gemignani, directeur sportif d'Anquetil. Allô, Gem ? On organise un méchoui. Tu viens ? Je viens. Gemignani frappe à la porte de Jacques. Jacques, ça te dit un dégagement ? Quel genre de dégagement ? Un méchoui. J'arrive. Et Anquetil, au lieu d'aller s'entraîner comme Poulidor, de savourer méchoui et sangria. Le lendemain, lors de l'étape Andorre-la-Vieille-Toulouse, Poulidor attaque dès le pied dans Valira. Anquetil, mal en point, accuse au sommet du col un retard de 4 minutes sur Poulidor. Anquetil avale le bidon rempli de champagne brut que lui tend Gemignani et se lance dans la descente noyée dans le brouillard. La descente effectuée, Jacques revient sur Poulidor, le double et franchit la ligne d'arrivée avec 2 minutes d'avance sur Poulidor. Méchoui, champagne, grand braquet, Anquetil c'est Anquetil, point barre.
Le repos est sur le tour, raconté par Christian Laborde pour RTL. Pas de repos par contre pour Christophe Paco, que vous retrouvez à 18h30 pour le Club Jalabert.
Quel bonheur ce Christian Laborde, vous réécoutez tout cela sur l'appli RTL, c'est formidable. Merci beaucoup Hortense Crépin pour toute l'actualité. Il est 7h37 en ce lundi, vous restez bien là, dans un instant l'angle écho. C'est avec Anaïs Bouissou, bonjour.
Bonjour.
On va parler économie et environnement.
Oui, si la crise Covid avait accéléré la révolution de l'économie verte et si les dirigeants avaient enfin pris conscience de l'urgence climatique. On verra que les idées et les objectifs se heurtent encore à la réalité, mais il y a quand même des raisons d'être optimiste.
Et bah tant mieux, décryptage complet juste après ceci.
Stéphane Carpentier, RTL Matin.
7h38, l'angle écho à quelques jours de la présentation par l'Union européenne d'un pacte vert pour réduire son bilan carbone. L'environnement a aussi fait partie des discussions du G20 ce week-end. Bruno Le Maire, par exemple, appelant à plus d'ambition pour l'avenir. Alors Anaïs, ça y est, c'est la révolution verte de l'économie.
On est sur une vraie prise de conscience. Le moment où la sève verte est en train d'irriguer toutes les branches de la forêt économique. À l'heure de la Covid, des dérèglements climatiques dans les entreprises, les annonces sont quotidiennes. Telle Total qui va cesser d'utiliser de l'huile de palme. Tel le secteur de l'assurance, à coup d'objectifs de neutralité carbone. Chez les grands argentiers, de la Banque de France à la Banque Centrale Européenne, c'est pareil. Christine Lagarde, la présidente, le dit clairement, c'est notre mandat d'agir face au changement climatique.
Et sur le plan politique ?
En France, on a quand même 30 milliards d'euros dans le volet écologie du plan de relance. À l'échelle de l'Europe, c'est aussi un changement politique majeur qui se dessine. L'annonce imminente de la fin des moteurs thermiques de voitures d'ici 15 ans, associé à une taxation du carbone. Alors le modèle n'est pas encore abouti, on peut considérer que c'est toujours trop lent, laborieux, que c'est de l'affichage. Mais l'idée qu'on peut à la fois soutenir l'économie et se préoccuper d'environnement commence à traverser tous les clivages économiques et politiques.
C'est le virus, Anaïs, qui a provoqué cette prise de conscience ?
Disons que la crise a accéléré cette prise de conscience. Le risque, c'était qu'en 2021, on mette encore la poussière planète sous le tapis de la crise, sous prétexte qu'il y avait plus urgent à régler. C'est sûrement l'inverse qui est en train de se produire.
On est d'accord malgré tout que c'est pas encore gagné. Hein.
Non, c'est sûr, les objectifs, les impulsions doivent encore franchir au moins 3 barrières dans la vraie vie. D'abord, l'argent que ça va coûter à l'État. Parce que dans la vraie vie, demander à la filière automobile de faire sa révolution verte, c'est 17 milliards d'euros à trouver et jusqu'à 100 000 emplois menacés, d'après les représentants du secteur qui seront reçus aujourd'hui à l'Élysée. À l'échelle mondiale, l'économiste Jean Pisani-Ferry chiffre même le mur des investissements en milliers de milliards d'euros. Deuxièmement, dans la vraie vie, les aides de l'État doivent s'accompagner de garde-fous pour éviter les effets d'aubaine d'entreprises subventionnées qui délocaliseraient quand même. Ces normes, ces garde-fous restent souvent à inventer. Et enfin, dans la vraie vie, une taxe, ben, qu'on le veuille ou non, ça pèse sur les citoyens.
Vous parlez des gilets jaunes, non ?
Oui, le mouvement des gilets jaunes à l'époque déclenché par un projet de taxe carbone nationale. Pour une taxe carbone européenne, le principe sera le même. Si vous taxez les produits polluants, vous faites augmenter le prix de l'acier, le prix du ciment. Si vous révolutionnez la filière auto, il faudra bien acheter de nouvelles voitures. Et pour que ces prix soient supportables, il va bien falloir compenser leurs coûts, au moins pour les plus précaires. Voilà pourquoi l'avenir vert peut vite ressembler à un puissant fonds d'argent à dépenser. Mais en réalité, il faut quand même s'y jeter. Et rapidement, c'est encore écrit dans un récent rapport international d'économistes. Car plus on attend, plus le puits se creuse et plus le coût de la transition sera élevé.
Explication, décryptage complet ce matin, l'anglais co-signé Anaïs Bouissou. 7h41, bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Votre invité aujourd'hui.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, contre la vaccination obligatoire des soignants. Mais alors, comment enrayer cette quatrième vague qu'on nous annonce ?
Philippe Martinez et Benjamin Sportouche, c'est en direct à la radio sur RTL, juste après ça.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
7h42, l'invité de RTL, Benjamin Sportouche. Vous recevez donc ce matin le leader de la CGT.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors le président de la République devrait annoncer ce soir la vaccination obligatoire des soignants. Toutes les autorités médicales disent que c'est indispensable. Vous êtes, vous, la CGT, le premier syndicat de la fonction hospitalière et vous êtes contre. Est-ce que c'est vraiment responsable, Philippe Martinez?
Oui, c'est responsable. On n'est pas contre la vaccination, vous l'avez compris. On est pour la vaccination. Sauf que d'obliger les gens, c'est pas la bonne solution, c'est ce qu'on dit. Et notamment le personnel soignant. Il faut d'abord, et c'est ce que j'ai dit au président de la République la semaine dernière, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi les gens les plus impliqués dans la lutte contre la Covid ont des réticences. Et il y a plusieurs explications et donc il faut plutôt discuter que contraindre.
Et ça fait des mois que vous discutez. Vous leur dites quoi à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ? Vous avez essayé de les convaincre ? Vous trouvez quoi comme argument ?
Non, on dit que la vaccination, c'est un passage obligé pour, parce que pour l'instant, c'est la meilleure solution pour convaincre la Covid. Mais ce qu'on a dit surtout au président de la République, c'est que premièrement, on ne peut pas les avoir applaudis pendant un an et aujourd'hui les montrer du doigt parce qu'ils seraient responsables de tous les maux. Vous savez, les soignants, certains sont venus travailler toute l'année dernière, y compris en étant cas contact ou malade. Et c'est ce double discours qui gêne les soignants, par exemple.
Oui, mais très franchement, vous, à titre personnel, imaginez qu'un de vos proches soit soigné par une infirmière ou un infirmier non vacciné. Ça ne vous inquiéterait pas ?
Mais vous avez entendu ce que j'ai dit ? L'année dernière,
oui.
L'année dernière, on les faisait venir,
oui.
Les soignants, en étant cas contact, voire certains étaient
Bah oui, mais
malades. Et donc, c'est ce double discours des autorités qui fait qu'il y a une incompréhension. La deuxième chose, c'est, vous savez, qu'on manque beaucoup de personnel. On n'a rien réglé depuis des années et des années. Il y a manque de personnel dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Ça a fait l'objet de mouvements sociaux. Les personnels disent on n'en peut plus. S'il y a des effets secondaires à la vaccination, qu'est-ce qu'on va faire ? On est obligé de venir travailler en étant malade. Si on reste à la maison, on n'est pas payé parce que vous savez que le gouvernement a instauré un jour de carence. Vous voyez, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut expliquer aux soignants.
Mais qu'est-ce que vous ferez si le chef de l'État annonce ce soir qu'il oblige les soignants à se vacciner ? Est-ce que vous leur direz, vous faites comme vous voulez, vous les appelez
pas, moi, je leur dis rien, moi.
Non, vous saisirez le Conseil d'État ? Qu'est-ce que vous ferez ? Est-ce que vous manifesterez ?
Moi, je leur dis rien. Ce sera au président de la République, ministre de la Santé, d'aller s'expliquer avec le personnel soignant. Moi, vous connaissez la position de la CGT et elle s'appuie sur tous les témoignages qu'on a eus.
Mais c'est pas une attitude d'enfant gâté quand même tout de même, Philippe Martinez. On a un vaccin que personne n'espérait si peu de temps.
Vous savez, vous allez aller à l'hôpital et aller leur dire que c'est des enfants gâtés. Et puis, je crois que vous allez partir en courant. Voilà.
Mais globalement, sur la population générale, vous trouvez qu'on se dit, on imagine pas
trouvez
ce
ça,
vaccin.
Vous trouvez ça normal, vous, qu'après après ce qu'ils aient donné, tout ce qu'ils ont donné pour le pays. Non, mais vous mesurez, pas de vacances. Des journées à rallonge, etc., qu'aujourd'hui on les culpabilise. Vous trouvez ça sérieux, vous ?
Mais vous trouvez pas ça? Est-ce que c'est contradictoire avec le fait de se vacciner? Certes, c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné pour le pays, mais en même temps, on leur demande de se protéger pour protéger les autres.
Il faut discuter avec eux. Pourquoi? Pourquoi? Alors que c'est les premières lignes, comme on a dit. Pourquoi il y a des réticences? Moi, je vous ai donné quelques raisons.
Mais c'est des réticences aussi sur le vaccin lui-même? Vous avez l'impression qu'il y a des inquiétudes?
Il faut arrêter avec ces théories complotistes. Il y a des raisons objectives, je vous en ai donné quelques-unes. Et c'est ce que j'ai dit au président de la République la semaine dernière. Écoutez-les, plutôt que de les obliger. Et ça va aller mieux. Il y a les moyens qu'on donne au personnel pour aller se faire vacciner. Mais c'est valable pour l'ensemble de la population. Vous voyez, ça fait 6 mois qu'on dit « mettez des bus ». Qui vont sur les lieux de travail, ils viennent, le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait le faire. Ouais, on a perdu du temps.
Alors, est-ce que, à défaut de la vaccination pour tous, est-ce que vous êtes pour l'élargissement du pass sanitaire à des lieux comme les restaurants et les cinémas, Philippe Martinez?
Il faut regarder les conditions. Mais j'étais, par exemple, il y a une forte inquiétude dans le spectacle. J'étais au Festival d'Avignon ces trois derniers jours, alors que ils viennent de passer eux aussi plus d'un an, mais eux sans travailler, il y a des inquiétudes. Et donc là aussi, il faut trouver des équilibres, des formes qui permettent évidemment de protéger la population, tout en maintenant l'activité culturelle, par exemple.
Et le déremboursement des tests de confort, ou en tous les cas pour se faire détecter le Covid, est-ce que vous trouvez ça exagéré, ou vous pensez que ça peut être aussi une forme d'incitation à la vaccination?
Ce qui devrait être fait depuis longtemps, c'est de favoriser la vaccination. Nous avions proposé de donner du temps pour aller se faire vacciner parce que toute la période de fin d'hiver, il fallait attendre longtemps, les rendez-vous étaient compliqués. On a traîné pour encourager la vaccination.
Mais vous réclamez quoi? Au patron qu'il donne une demi-journée à leurs salariés, c'est ça?
Bien sûr.
Et Geoffroy Roux-de-Bézieux dit non pour le moment.
Vous savez, quand on demande quelque chose au patron, d'être payé sans aller travailler, c'est toujours un peu compliqué, vous le savez.
Bon, bah écoutez, le message est passé, on verra s'il change d'avis.
Ça fait longtemps qu'il est passé, le message.
Mais écoutez, on va voir s'il réfléchit à nouveau. En tous les cas, certains s'interrogent sur le fait de savoir si le déconfinement a été trop rapide ou pas. Pour vous, est-ce qu'on a levé les restrictions trop vite?
Je n'ai pas les compétences pour répondre à cette question. Nous, on est là pour écouter les salariés, ceux qui travaillent, et mettre en avant les difficultés et faire des propositions. Sauf que quand on fait des propositions, vous voyez, la demi-journée... pour se faire vacciner, les bus qui vont sur les lieux de travail, on n'est pas écouté.
Sauf qu'il va y avoir des centres de vaccination pour les fonctionnaires. C'est Amélie de Montchalin qui l'a annoncé, donc ça c'est plutôt une bonne chose quand même.
Si c'est au plus près de leur lieu de travail, oui.
Alors passons à la réforme des retraites. Président de la République, on se demandait s'il allait la relancer. On nous dit maintenant que ça sera peut-être après 2022. Dans ce cas-là, et François Bayrou a proposé un référendum sur la réforme des retraites et le passage de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ. Est-ce que vous seriez d'accord avec le principe même du référendum?
Demander l'avis aux gens, je crois que c'est une volonté démocratique qui s'est beaucoup exprimée dans ces dernières années dans le pays. Les référendums, ça dépend de la question. Si on pose une question, voulez-vous travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, pourquoi pas? Ça ferait l'objet d'un magnifique débat dans le pays. Vous savez, il y a plusieurs sondages qui disent que les Français, en moyenne, veulent partir à 58 ans. Donc, vous voyez, ça peut donner des choses intéressantes. Et les plus jeunes veulent partir à 56 ans. Oui, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et puis, si on veut donner du travail à ceux qui n'en ont pas, il ne faut pas garder plus longtemps ceux qui ont du travail au travail.
Donc, vous dites banco pour ce référendum. Vous n'êtes pas hostile à ce référendum.
Si la question... si on est associé à la question... En tout cas, ça ferait l'objet d'un bon débat.
Et si jamais le président l'annonce ce soir, mais c'est fort peu probable, cette réforme, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, on redescend dans la rue, c'est ça?
Vous avez remarqué que tous les syndicats sont contre, donc il faudra se défendre.
Il faudra bloquer le pays à nouveau.
Puisque le président de la République, au cas où il annonce quelque chose, n'écoute pas, il faudra élever la voix.
Vous avez l'impression globalement que c'est un président qui n'écoute pas, qui ne vous écoute pas?
C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité.
Depuis le début de ce quinquennat, vous avez l'impression de ne pas être entendu?
Pratiquement sur tous les sujets, oui.
Et pourtant...
Enfin, il écoute, mais il n'entend pas.
Et pourtant, il devrait annoncer l'extension de la garantie jeune et peut-être une allocation de rentrée pour les boursiers. Est-ce que ça, c'est de nature à vous satisfaire?
Mais c'est bien pour les jeunes de ne pas les laisser dans la misère. Mais ce qu'il faut travailler, c'est les questions d'emploi. le gouvernement se vante de leurs mesures « un jeune, une solution ». Enfin, pour l'instant, c'est le développement de la précarité, c'est le développement de la pauvreté. Enfin, en fait, c'est comme avant, quoi. Comme avant.
Mmh. Mais vous dites, on a l'impression que vous dites que ce n'est pas assez, mais c'est déjà un pas ou pas ? Est-ce que vous pensez que l'extension de la garantie jeune,
c'est... Oui, mais c'est un pas, mais ce n'est pas une mesure à long terme. Mmh. C'est pour les aider provisoirement. Ce qu'ils veulent, c'est travailler. Travailler et avoir du boulot en fonction de leur qualification. Quand on est bac plus 5, eh bien on doit pouvoir trouver du boulot correspondant à sa qualification, pas un petit boulot provisoire. Vous savez, la précarité, c'est si vous voulez trouver un logement, essayez de trouver un logement avec un CDD. C'est impossible. Voilà, c'est
oui,
ça.
Ce que disent les jeunes qui vont, pour beaucoup, et on revient à la vaccination, se faire vacciner, ils se disent que si leurs parents, leurs aînés ne se font pas vacciner, c'est toute l'activité économique qui reste bloquée. Est-ce que vous ne preniez pas le risque, vous, en vous engageant pas vraiment clairement dans la vaccination, de retourner vers un confinement ?
Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Nous sommes pour la vaccination. C'est clair, je suis vacciné.
Vous êtes vacciné.
Mais le message, c'est est-ce que vous, quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et qu'on vous y oblige...
Il y a déjà 11 vaccins obligatoires. Pourquoi on n'irait pas plus loin ?
Je crois que je vous ai déjà répondu.
Non, mais ça interpelle, ça m'interroge encore. Mais
la question, c'est pour l'instant... Pourquoi il y a une réticence ? Eh bien, on discute, on prend en compte. Il y a des tas de problèmes dans la santé qui ne sont pas réglés. Les questions de la reconnaissance, aussi les qualifications, les emplois. On manque d'emplois dans la santé. Je pense que l'année qu'on vient de vivre a démontré qu'il fallait plutôt investir dans la santé plutôt que de réduire les dépenses. Voilà, c'est des sujets importants. Pour l'instant, les personnels de santé n'ont pas beaucoup de réponses. Vous savez qu'on continue à fermer des services et des lits.
En combien on en a fermé, là, encore récemment, pendant la période Covid ?
J'ai pas des chiffres
parce
précis, mais...
Parce que le gouvernement dit le contraire, qu'il a augmenté la capacité hospitalière.
Vous avez le droit de les croire.
C'est faux.
Vous avez le droit de les croire.
C'est de la manipulation.
Enfin, c'est aller sur le terrain. Vous verrez qu'il y a des lits qui continuent à fermer, il y a des services qui sont regroupés, il y a des maternités qui ferment, des urgences qui ferment. On est toujours sur l'idée, la santé, ça coûte cher, et donc il faut réduire les dépenses. Et ben, nous, on pense l'inverse. Il faut investir.
Alors, puisqu'on parle d'emploi, il y a cet après-midi, le Président de la République va recevoir la filière automobile qui réclame 17,5 milliards d'euros. Sinon, il y a un risque de délocalisation et de suppression de 100 000 emplois dans la filière automobile. Est-ce que vous rejoignez ces patrons de la filière automobile qui réclament ces sommes importantes ?
Il faut de l'investissement dans l'ensemble de l'industrie. Mais la question qui est posée, c'est pourquoi faire ? Parce que pour l'instant, les constructeurs automobiles ont touché beaucoup d'argent.
Mais ils ne sauvent pas les emplois ?
Non, pas du tout, non. Et ils continuent à délocaliser. Vous savez, on peut dire qu'il faut des voitures électriques en France, mais si elles viennent de l'autre bout du monde, l'impact sur la planète n'est pas terrible. Donc, en réalité, aujourd'hui, on continue à aller produire ailleurs ce qu'on pourrait produire ici.
Et alors, une taxe carbone aux frontières, comme Bruxelles devrait l'annoncer, aux frontières de l'Europe, est-ce que c'est de nature à vous satisfaire ? On dit que c'est, pour certains, une bombe économique qui aura forcément un impact sur le pouvoir d'achat. La taxe carbone française qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes.
Il faut des règles sociales et environnementales qui soient identiques pour tout le monde. Oui, pourquoi pas ? Mais il faut aussi que, dans d'autres pays, il y ait des règles sociales qui respectent le minimum de règles internationales. Par exemple, le droit de se syndiquer, le droit de faire grève.
Mais vous êtes favorable à cette taxe carbone aux frontières européennes ?
Il faut des règles environnementales qui soient les mêmes pour tout le monde.
D'accord. Une toute dernière question, parce que vous êtes présent sur la caravane du Tour de France, la CGT, puisqu'on parle de délocalisation, ça peut paraître anecdotique, mais ça m'a interrogé quand même. Vous distribuez des sacs siglés CGT, 100 000 au total, et vous les fabriquez en Asie. Et je me suis dit, mais pourquoi Philippe Martinez et la CGT n'ont pas trouvé un fabricant français ?
J'ai pas vérifié, mais comme
c'est le Parisien qui nous donne cette information.
Oui, comme j'y vais demain, je vais vérifier où on les fabrique. Mais vous savez que l'industrie textile, elle est comme les autres. Pour trouver des produits made in France, comme disent certains, c'est compliqué. Mais je vais vérifier.
Vous lancez un appel éventuellement pour trouver un fabricant français.
Demain soir, je vous
dirai
comment on fait l'année prochaine.
Parfait, on vous réinterrogera. Merci beaucoup, Philippe Martinez. Bonne journée.
Merci à vous.
Un entretien à retrouver sur l'appli RTL, évidemment. Il est 8h05 en ce lundi. Dans un instant, c'est Cyprien Sini qui pose son surf pendant l'été, mais qui répond aux questions des petits et des grands. Les pourquoi de l'été, c'est dans 75 secondes. À tout de suite.
RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini.
Bonjour Cyprien Signy.
Bonjour à tous.
Alors tout l'été, vous répondez aux interrogations de nos auditeurs. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de mauvaises questions. La première, on l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Alix, j'ai 5 ans et je veux savoir pourquoi la mer est salée.
Alors vous répondez, Alix ?
Bah oui, alors pourquoi la mer est salée ? La mer qui te pique les yeux et qui fait mal aux petites coupures qu'on se fait sous les pieds. Eh bien, si la mer est salée, c'est pas à cause des pêcheurs qui s'amusent à renverser la salière dedans, non. Pour comprendre pourquoi la mer et les océans sont salés, il faut remonter le temps très loin, très très loin en arrière, avant même l'époque des dinosaures. Retour il y a 3,8 milliards d'années en arrière, quand les océans sont formés. En fait, des pluies diluviennes se sont abattues sur notre planète. Au contact de l'eau, les roches se sont dissoutes. Or, ces roches étaient salées. Et en ruisselant jusqu'à la mer, les gouttes d'eau vont former des rivières et des torrents qui vont aussi charrier des sels minéraux contenus dans les roches. Résultat, eh ben une accumulation d'eau salée. Mais alors attention, niveau sel, toutes les mers et tous les océans ne se valent pas. Si vous allez vous baigner dans la mer Baltique, au nord de l'Europe, alors vous aurez très peu de sel, hein. 10 grammes par litre, alors que dans la mer Morte au Proche-Orient, ça risque de piquer un peu, 260 grammes de sel par litre d'eau. Alors plus près de nous, la Méditerranée par exemple, ouais, est un tout petit peu plus salée que l'océan Atlantique. Et là, comme vous êtes très malin, vous vous demandez peut-être pourquoi la pluie, elle, n'est pas salée, alors que pourtant c'est de l'eau de mer qui s'est évaporée et qui nous retombe dessus.
Ben pourquoi ?
Eh bien tout simplement parce que l'eau s'évapore, mais pas les cristaux de sel qui, eux, finissent par être absorbés par les fonds marins. Conclusion, le niveau de sel et le niveau de l'eau restent constants, car finalement, les choses ne sont pas si mal faites.
La réponse à une question salée ce matin avec Cyprien Signy. Oh, il fallait le faire. Les pourquoi de l'été.
À demain.
RTL Matin.
Sur RTL.
Louis, on commence par ceux qui ont de la chance, oui, qui verront le soleil.
Ils sont pas beaucoup, mais effectivement, sont toujours les mêmes. Du côté de la Côte d'Azur, sur la Corse, là, vous aurez du soleil tout au long de la journée, avec un petit peu de vent, notamment aux extrémités de l'île de cette Corse. Mais là, bon, au moins du soleil. Et puis, c'est à peu près tout. Ailleurs, on aura donc des passages nuageux, des averses. C'est déjà le cas, là, dans le Massif central, dans le centre. Ça remonte sur l'est de l'île de France. Il y en a également dans le nord-ouest. Alors, tout ça va tourner et retourner, parce que parfois, on a le nuage deux fois. Vous voyez, comme la dépression, elle est centrée sur la France, ça passe une fois, puis hop, ça revient. Donc, vous voyez, ça vous donne le temps de la journée et même de ces premiers jours de la semaine. Avec ces averses, évidemment, les températures vont baisser et ça sera quand même parfois entrecoupé de quelques éclaircies. Alors, allez, je vais être optimiste, près des côtes, sur le littoral atlantique, il y aura peut-être un peu plus d'éclaircies, un petit peu moins d'averses. Peut-être que je m'avance en disant ça d'ailleurs. Et puis également, ces températures donc en baisse, hein, cet après-midi. Ce matin, on est souvent entre 10 et 15 degrés, 20, plus de 20 degrés près de la Méditerranée, mais cet après-midi, 18 à 20 degrés seulement, hein, je parle bien des maximales, sur la Bretagne ou encore près de la Manche et sous la pluie. En plus, ça donne une impression assez désagréable. 20 à 23 degrés dans la moitié ouest, 23 à 26 degrés dans la moitié est avant les orages. Hein, sous les orages, on peut perdre jusqu'à 5-10 degrés parfois en quelques minutes et 26 à 31 degrés près de la Méditerranée.
Voilà, pour se consoler de tout cela et de ces caprices de la météo, il y aura un gagnant ou une gagnante exceptionnelle ce matin dans une heure. Faut pas rater le grand tirage au sort pour gagner 150 000 euros. Vous l'avez vu durant tout l'Euro sur M6. M6 qui diffusait des matchs dont la finale hier. Et RTL mettait en jeu 150 000 euros. Et ben, le tirage au sort, c'est juste avant 9h tout à l'heure. Si vous avez joué durant la compétition, vous repartirez peut-être avec ce chèque-là. Et ça, ça change la vie, évidemment. Soyez tous les bienvenus. Bon réveil. Il est 8h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h, c'est toute l'actualité avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et dans ce journal, un témoignage qui plaide fortement pour la vaccination des soignants.
Un témoignage d'une femme dont le père est mort du Covid lors d'une hospitalisation pour un tout autre motif. Elle met l'État en accusation. Un appel à Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir à 20h. Il annoncera probablement l'obligation vaccinale pour les soignants, mais aussi une extension du pass sanitaire. L'actualité de ce lundi, à l'accent italien, victoire de la Nat et hier en finale de l'Euro face à l'Angleterre. Scène de joie à Rome, mais des incidents autour de Wembley. À suivre également l'espace, cet endroit plein de touristes milliardaires. Et puis le Tour de France qui fait escale dans les Pyrénées.
RTL Matin.
Se vacciner, c'est sauver des vies. Ne pas se vacciner, ça peut être fatal. C'est le message que veut faire passer Johanna, qui témoigne ce matin sur RTL. Elle est la première en France à mettre l'État en cause pour ne pas avoir rendu obligatoire la vaccination des soignants. En mai dernier, son père, hospitalisé, a succombé à la maladie. Et pour elle, c'est une évidence. Il a été contaminé par le personnel.
Le 13 mars, mon père est entré à l'hôpital pour une fracture de la hanche. Il a séjourné pas mal de temps. Il a été testé plusieurs fois négativement par rapport au Covid. Il était également en chambre isolée parce qu'il était immunodéprimé. Et malheureusement, il nous a quittés le 2 mai du Covid, donc au sein de l'hôpital, par le personnel hospitalier, car ils n'avaient pas le droit aux visites. Quand j'avais eu un docteur en leur disant est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont testés, et en fait ils m'ont répondu que c'était toujours pas obligatoire en fait. Le docteur m'a appelé pour nous dire qu'il était mort. Je leur ai dit en criant: vous avez tué mon père. Voilà, c'est la première chose qui m'est sortie, c'est vous avez tué mon père, puisque c'est de leur faute. S'il n'avait pas été à l'hôpital, il serait encore avec nous.
Et vous en voulez à qui aujourd'hui? À l'hôpital, à l'État, aux soignants?
Je m'adresse à l'État, déjà, premièrement, de rendre de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, et également que les soignants aient un peu de bon sens. Le personnel soignant n'a pas été vacciné, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'épargner. Ils auraient pu se faire vacciner quand ils sont au contact de personnes à risque. J'espère que vraiment le gouvernement va rendre les choses obligatoires. Chaque jour de non-vaccination est un jour où des personnes meurent contaminées du Covid à l'hôpital. Pendant plus d'un an, on a fait super, super attention pour au final, il a été tué par le personnel soignant là où il devait être soigné.
Johanna, témoignage RTL recueilli par Valentin Boissé. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron s'adresse aux Français et il devrait annoncer précisément une obligation vaccinale pour les soignants. Un projet de loi pourrait être adopté avant la fin du mois pour une application dès la rentrée. Cette obligation pour les soignants ne suffira sans doute pas à enrayer la menace Delta, mais a priori, pas question d'imposer la vaccination à toute la population. Il devrait donc y avoir d'autres mesures, notamment l'extension du pass sanitaire pour entrer dans les restaurants ou assister à des matchs de sport. Et puis le conseil scientifique recommande des restrictions supplémentaires dans les zones les plus touchées en France. À Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, on est repassé en zone rouge. Il faut dire qu'on n'est qu'à 25 km de la Catalogne. Et l'angoisse monte chez les professionnels du tourisme, Benjamin Pelsi.
Dans les rues étroites du centre-ville de Collioure, les commerçants qui attendaient les touristes avec impatience sont inquiets si de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur. Certains, comme Vincent, qui tient une conserverie d'anchois, craignent que les vacanciers se fassent plus rares.
Si on a des restrictions d'horaire et un nouveau couvre-feu, ah là, ça va mettre un frein considérable s'il y a des restrictions importantes.
Ce que redoute Patrick à la tête d'un des restaurants emblématiques du port, c'est de devoir demander un pass sanitaire à ses clients.
Vous avez les 200 personnes qui vont arriver d'un coup pour manger. On va remplir les terrasses, il faut donner les cartes, il faut prendre les commandes. Et en plus, il faut s'occuper du pass sanitaire. On ne peut pas gérer ça. Impossible.
La perle du département, comme l'appellent certains commerçants, va passer de 2500 à 15 000 habitants. Face à cet afflux, Jérôme, responsable d'un hôtel-restaurant, demande plus de restrictions sanitaires.
Je pense que c'est important et c'est jouable. Parce qu'on brasse une population qui vient de partout. Il y a quand même une petite clientèle étrangère. Des restrictions, il en faut. Il faut qu'elles soient raisonnables pour qu'on puisse travailler, mais il en faut.
Le maire de Collioure a d'ores et déjà imposé le masque dans toute la ville depuis samedi.
Reportage RTL signé Benjamin Pelsi. Le variant Delta du Covid progresse à grande vitesse. Il représente désormais plus de la moitié des nouveaux cas. Ça ne se traduit pas encore à l'hôpital, mais si on ne fait rien, selon Olivier Véran, le nombre de contaminations quotidiennes pourrait remonter au-dessus de 20 000 début août.
La prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est donc ce soir 20h. Ce sera en direct sur RTL autour d'Olivier Bois pour une édition spéciale à l'occasion de cette allocution élyséenne.
L'euro sur RTL.
Et l'Angleterre qui reste maudite, Isabelle, c'est l'Italie qui remporte donc l'euro cette année.
Une victoire au tir au but face à une équipe anglaise qui avait pourtant ouvert le score dès la deuxième minute. On était à un partout à la fin du temps réglementaire et après la prolongation, les Italiens engrangent leur deuxième titre européen après celui de 1968. Explosion de joie hier soir dans les rues de Rome, sous les yeux d'Olivier Bonnel, le correspondant d'RTL.
Une liesse dans la fan zone installée au cœur de Rome après le coup de sifflet final. Après de longues minutes d'angoisse, l'Italie a peiné et serré les dents, mais l'Italie est championne.
C'est une belle et difficile victoire, ça a été vraiment dur. Mais c'est une belle victoire et on en avait besoin. L'Italie gagne surtout avec le cœur parce qu'on n'avait pas de grandes stars, mais on l'a fait.
Trois ans après son absence du mondial, les Italiens ont pris une revanche sur l'histoire et se sont trouvés une équipe invincible durant la compétition.
C'est une émotion unique pour les Italiens. On a de grands espoirs pour le mondial 2022. On essaiera de faire la même chose, on croise les doigts.
Rome s'est rapidement transformée en un concert de klaxons géants. Fumigènes, cornes de brume et même feux d'artifice ont retenti longtemps dans la nuit avec ce sentiment de fierté supplémentaire d'avoir battu l'Angleterre chez elle.
C'est un deuxième Brexit. Vive l'Europe, vive l'Italie.
Les Italiens un peu moqueurs au micro RTL d'Olivier Bonnel, des Italiens qui peuvent remercier tout de même leur gardien Gianluigi Donnarumma qui leur a offert la victoire en arrêtant 2 tirs au but. Oui, mon accent italien n'est pas meilleur que le vôtre. Il a été sacré meilleur joueur du tournoi et bonne nouvelle, le portier du Milan AC est annoncé au PSG la saison prochaine. Les Anglais, eux, restent sur leur faim, forcément défaits en leur royaume à Wembley, frustrés d'une victoire à l'international qu'ils espèrent depuis 55 ans. L'amertume a été noyée dans la bière, ce qui a provoqué quelques débordements. Marie Billon.
Ah oui, l'ambiance était déjà tendue avant le match, hein, quand des dizaines de fans sans ticket ont tenté de forcer les grilles du stade, ce qui a débouché sur des bagarres dans et aux abords de Wembley. Mais après la rencontre, la tension, la déception et l'alcool, hein, bien sûr ingurgité en quantité depuis le matin, ont été un cocktail détonnant. La police anti-émeute a été appelée pour disperser la foule. Les fans criaient des insultes contre les Italiens, lançaient des bouteilles en l'air. On a pu voir un peu la même chose aussi dans le centre de Londres, près de la fan zone de Trafalgar Square. Certains ont même tenté de casser les barrières qui délimitaient le périmètre. Scotland Yard a procédé à 49 arrestations hier. 19 policiers ont été blessés. Ce matin, des dizaines de poubelles resteront versées, des bouteilles cassées jonchent encore le bitume à certains endroits. Londres aurait presque la gueule cassée, mais les Londoniens ont clairement la gueule de bois.
Merci Marie Billon en direct de Londres pour RTL.
Et puis ils se sont couchés très tard bien sûr après cette finale de l'Euro, mais ils ont mis le réveil pour être en direct avec nous. Robert Pires, le consultant M6 et RTL, il sera avec nous à 8h17 dans 10 minutes tout pile avec notre commentateur maison Philippe Sanfourche. On va faire le point complet sur cet Euro, dresser le bilan, la victoire italienne, se projeter déjà sur la Coupe du Monde parce que c'est dans un an et demi seulement au Qatar. Vous restez bien là dans un instant, Richard Branson dans l'espace et ce n'est qu'un début, à tout de suite.
RTL Matin.
La suite du journal avec Isabelle Choquet à 8h09. Le tourisme spatial est donc sur les rails et c'est Richard Branson qui a ouvert la voie hier.
Avec un vol de quelques minutes à bord de son vaisseau Virgin Galactic, le milliardaire parle d'une expérience unique dans une vie. Alors il a coiffé au poteau un autre super riche, Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, qui doit s'envoler lui le 20 juillet. Mais ce n'est pas exactement le même genre de voyage, c'est ce que nous explique l'ancien astronaute Jean-François Clairvoy.
Jeff Bezos va voler à bord de sa capsule New Shepard qui va monter au sommet d'un étage de fusée qui n'a jamais volé avec quelqu'un à bord. La ressemblance, c'est que ces deux vaisseaux ont pour objectif d'emmener des touristes à la frontière de l'espace, entre 80 et 100 km. La grande différence, c'est que le vaisseau de Jeff Bezos emportera pour la première fois des humains. Et c'est le principe de la capsule classique. Ça monte verticalement et ça descend verticalement sous parachute. Le vaisseau de Richard Branson a toujours volé avec des personnes à bord, mais la plupart du temps des pilotes d'essais professionnels. Le vaisseau est porté par un avion jusqu'à 15 km et c'est seulement à 15 km qu'il est largué et qu'il allume son moteur fusée. Et au retour, il se comporte comme un planeur. Deux concepts différents, un peu comme deux concepts entre les Russes qui envoient leurs astronautes avec les Soyouz et la NASA pendant 30 ans qui a emmené ses astronautes dans l'espace avec la navette spatiale américaine.
Jean-François Clairvoy avec Pierre Collat pour RTL. Sur Terre, on est visiblement trop près du soleil. L'Espagne fait face à une vague de chaleur exceptionnelle. Il a fait plus de 44 degrés hier en Castille, dans le centre du pays. Cette canicule doit se propager aujourd'hui dans l'Est. Et puis la chaleur revient aussi aux États-Unis et au Canada où des mesures d'urgence ont été prises pour prévenir les feux de forêt.
Je voudrais comprendre les choses, Louis Bonin, je profite de vous. 44 degrés hier en Castille, l'Espagne. Comment on peut avoir aussi peu, nous?
Nous, ben tout simplement parce qu'on a ce courant de sud-ouest qui a apporté d'ailleurs cette chaleur, hein, qui vient du Sahara situé sur l'Afrique du Nord. Et donc comme on a ce flux de sud-ouest qui arrive jusqu'à chez nous, mais lui avec là de l'humidité et de la fraîcheur, eh bien, il a transporté cet air très chaud à travers la Méditerranée pour remonter sur le sud de l'Espagne. Mais comme ensuite on a un temps très perturbé qui nous arrive de l'Atlantique, eh bien cet air chaud n'arrivera pas jusqu'à nous. Il va même régresser, de nouveau retourner vers l'Afrique du Nord au cours de ces deux prochains jours.
Voilà les explications. Merci Louis. Sur le Tour de France, Isabelle, c'est l'Américain Sepp Kuss qui s'est imposé hier dans la 15e étape à Andorre-la-Vieille.
Une étape pyrénéenne qui a coûté cher au premier Français, Guillaume Martin, qui a perdu 4 minutes. Il est relégué de la 2e à la 9e place. Le Slovène Tadej Pogacar est toujours en jaune et aujourd'hui c'est repos sur le Tour.
Tour de France 2021.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
Pogacar, toujours maillot jaune. Quelques attaques hier, étape de repos aujourd'hui. Il faudrait quand même que les adversaires de Pogacar profitent de la journée de repos pour revoir leur stratégie.
Pogacar est indéboulonnable, tout simplement. Il a eu cette intelligence de creuser des écarts, et des écarts importants lors de la première semaine. Il aborde les dernières étapes pyrénéennes avec une avance confortable, et on constate que finalement, derrière, on ne pense qu'à la deuxième, à la troisième place, et on se neutralise volontiers. Pogacar est bien drivé, il est intelligent, il n'a pas d'équipe autour de lui, mais finalement en cours de route il trouve toujours une équipe ou une autre intéressée pour rouler parce qu'il y a un coureur à distancer. C'était le cas dans l'étape d'hier, ça fait le jeu de Pogacar. À ce rythme là effectivement, il va arriver dans un fauteuil sur les Champs-Élysées en jaune. Pogacar l'an dernier, il gagne le Tour, il n'avait pas d'équipe, un seul coéquipier à ses côtés dans les étapes de haute montagne. Il a calqué sa course sur Roglic et il est allé chercher le maillot jaune dans le contre-la-montre. C'est la marque aussi d'une certaine intelligence. C'est un garçon qui sait lorsqu'il est un peu isolé, lorsqu'il est peut-être, il pourrait être mis en difficulté par une situation qui est un peu inconfortable pour lui, eh bien, il a cette intelligence de savoir vers qui se tourner pour avancer et rester dans la bonne position.
On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour parler repos. Car c'est une journée de repos, la seconde de ce Tour de France 2021. Tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Un mot du tennis. Sans surprise, Novak Djokovic a remporté hier la finale de Wimbledon. Une victoire en 4-7 sur l'Italien Berrettini. C'est le 20e titre en Grand Chelem pour le Serbe qui égale ainsi le record de Nadal et Federer.
Isabelle, l'histoire du jour.
La devinette du jour, très exactement. Qu'est-ce qui est rouge avec une moustache et qui vaut plus $1,500,000? Ouais. Séché. Super Mario, Mario, très exactement. Une cartouche intacte de Super Mario de 1996, la première qui utilise la 3D. C'est un record hein, pour un jeu vidéo, $1,500,000. C'est la première fois qu'on passe le million.
C'est l'info bonus d'Isabelle Choquet ce matin sur RTL à 8h14. Chaque lundi matin, sachez-le, cet été, on va s'arrêter avec le service santé de RTL sur ces découvertes médicales qui ont changé nos vies. La PMA en est une majeure, la procréation médicalement assistée, car sur les quelques 800 000 bébés qui naissent chaque année, 3,6% sont conçus par PMA. Ça représente un enfant sur 28 et le taux ne cesse d'augmenter. La PMA et son histoire, Odile Pouget.
Le premier bébé éprouvette français est né. Elle pèse 3,420 kg, mesure 51 cm. Un beau bébé dont nous ne connaissons pas pour le moment le prénom, ce qui ne saurait tarder.
Et ce bébé, c'est Amandine. Nous sommes le 24 février 1982, un jour historique pour l'équipe du professeur René Friedman de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. 4 ans après la naissance de Louise Brown en Angleterre, premier bébé au monde conçu par fécondation in vitro.
Par une petite intervention qu'on appelle une célioscopie, c'est-à-dire un petit trou dans le nombril. On va chercher l'ovule, on le met dans l'éprouvette.
En 1978, le professeur Jean Cohen, gynécologue obstétricien, détaille sur RTL la technique de la FIV.
Puis, on apporte les spermatozoïdes du partenaire masculin, on fait une fécondation dans l'éprouvette et quelques jours après, on va remettre à l'intérieur de l'utérus l'œuf fécondé qui pourra se développer comme normalement. C'est considérable comme révolution.
Une révolution en effet et un immense espoir pour toutes les femmes qui souffrent d'infertilité.
La médecine aujourd'hui peut nous aider. Je me suis battue et croyez-moi que c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de centre de fécondation in vitro de partout, ce n'était pas remboursé, mais tout ça je ne le voyais pas. Ce que je voulais c'était un enfant.
Le désir d'enfant, plus fort que tout pour Chantal, maman de jumeaux puis de triplés. Mais cette révolution suscite également doutes et inquiétudes.
Le fait qu'on arrive à concevoir un embryon en dehors du corps humain faisait passer les biologistes, les gynécologues pour des apprentis sorciers.
Le professeur Nelly Achaud-Friedman, responsable de la biologie de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair, se souvient.
Et ça a été très très dur de faire comprendre que l'infertilité n'était pas un problème de confort, qu'il y avait une souffrance morale qui relevait de la prise en charge médicale.
Succès pour la médecine française, 2 bébés sont nés après transplantation d'embryons congelés. Sarah et Guillaume sont en parfaite santé.
Nous sommes en 1986. On peut désormais conserver les embryons en surplus dans de l'azote à moins 196 degrés pour les implanter plus tard. Ainsi, plus de grossesses multiples à risque. En l'an 2000, nouvelle révolution. Grâce au diagnostic préimplantatoire, les médecins prennent en charge des couples qui risquent de transmettre une maladie génétique grave à leur enfant. Nelia Shaw-Friedman.
On a pu transférer des embryons indemnes de la pathologie, ce qui a permis au couple d'éviter l'interruption médicale de grossesse lorsque le diagnostic est défavorable pour le fœtus.
Quelques années plus tard, la PMA fait irruption dans les débats de société. Ouverture du journal de 12h30 sur RTL.
Un droit à l'enfant pour toutes les femmes, vraiment toutes. Le comité d'éthique rendra son avis début juin sur l'ouverture ou pas à la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples homosexuels.
Contrainte d'aller à l'étranger pour bénéficier d'une PMA, ces femmes racontent leur parcours jonché d'embûches et disent leur espoir de voir changer les choses.
Je ne pouvais pas passer et concevoir ma vie sans enfant.
Armel, célibataire de 40 ans.
Du coup, je suis partie sur Barcelone. J'ai rencontré le docteur, la clinique. Il a fallu faire beaucoup d'économies. 12 000, 13 000 euros.
Marie et Nathalie, de retour de Belgique.
Aujourd'hui, on nous autorise à élever des enfants. Et on nous dit, par contre, pour aller les faire, allez à l'étranger, s'il vous plaît. On ne veut pas que vous les fassiez en France.
Et ça, c'est blessant et on a vraiment l'impression d'être infantilisé.
La PMA pour toutes sera finalement adoptée au Parlement le 29 juin dernier. On estime qu'entre 2000 et 3000 femmes pourraient être concernées chaque année.
Odile Pouget, ces découvertes médicales qui ont changé nos vies. Focus tous les lundis matins cet été. Il est 8h18, on va parler ballon rond, Euro, Italie, dans un instant. C'est le football et c'est terminé la compétition. Ce sont les Italiens qui ont gagné, les Anglais qui ont perdu.
Saka face à Donnarumma. Saka qui s'élance, les petits pas là justement. Et Donnarumma qui l'arrête. Donnarumma qui l'arrête. L'Italie est championne d'Europe. L'Italie est championne d'Europe. Exploit de Donnarumma qui aura arrêté 3. Penalty aura arrêté 2.
RTL Matin jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
C'est donc l'Italie qui a soulevé, ramené la coupe à la maison. L'Italie vainqueur de l'Euro hier soir à Londres en battant les Anglais. Au tir au but, deuxième sacre dans l'Euro en plus des quatre Coupes du Monde pour ces Italiens. Et toujours pas de titre pour les Anglais depuis 1966. Philippe Sanfourche est connecté depuis Londres, notre commentateur maison qui s'est couché très très tard. Vous étiez au stade hier soir. Bonjour à vous Philippe.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
Est-ce qu'on peut résumer en disant que ce sont les meilleurs qui ont gagné hier soir Philippe ?
Alors on peut résumer en disant que c'est en tout cas la formation qui s'est comportée le plus en équipe. C'est la formation qui a eu la moins peur de gagner parce que les Anglais, ils avaient fait le maximum, ils avaient fait le plus dur, on a envie de dire, en ouvrant le score après deux minutes de jeu dans le rentre de Wembley. Et finalement, des fois, on dit qu'on marque trop tôt. Et ben les Anglais, ils ont peut-être marqué trop tôt, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont arrêté de jouer comme ils savaient le faire et comme ils avaient entamé parfaitement la rencontre. Et derrière, on sait qu'avec les Italiens, leur expérience, les deux grognards derrière Bonucci et Chiellini, et ben petit à petit ils sont revenus et puis après ben c'est le poids d'une nation de quatre titres de champion du monde qui font qu'on est l'Italie et que jusqu'au bout on y croit.
Quelle histoire italienne Philippe, hein. Quelle renaissance d'une équipe reconstruite sur des ruines qui a changé son jeu tout simplement pour gagner quoi.
Oui, parce qu'il faut se souvenir à quel niveau ils étaient il y a encore 3-4 ans. Ils étaient complètement dans le trou. Le fait d'avoir raté la Coupe du Monde en 2018 à Moscou, ça a été une humiliation nationale pour ce grand peuple de sport et de football. Et ça a permis paradoxalement à Mancini, le coach, de repartir sur des bases neuves, d'imposer ses idées, de mettre des joueurs qui étaient très contestés à l'époque, comme notre petit Parisien Marco Verratti, qui a été installé un peu comme le patron de cette équipe. Et on l'a vu dans cette finale d'ailleurs, à un moment donné il a changé de poste quand ça allait pas bien pour les Italiens, c'est lui qui a pris les clés du jeu et qui a emmené tout le monde vers l'égalisation et finalement la victoire.
Ouais, et ça joue au ballon, ils ont séduit, ce qui a été très marquant à chaque rencontre Philippe, c'est l'envie, la motivation de ces Italiens, toujours à s'encourager, à tout donner. Quand on dit que le foot est un sport collectif, là ils en sont l'illustration hein.
Oui, alors là, je sais à peu près où vous allez nous emmener sur le thème qu'une équipe et qui plus est une sélection, c'est avant tout tirer dans le même sens et que le collectif passe avant les cas individuels. Et c'est vrai que cette sélection italienne, elle a toujours donné ce sentiment de viser dans le même sens. Et il y a une image qui est marquante, qui reste, c'est ce joueur blessé, Spinazzola, qui était l'un des meilleurs joueurs de ce début d'Euro, qui s'est blessé grièvement, qui est rentré se faire opérer du tendon d'Achille et qui est revenu avec ses béquilles et qui a été chercher sa médaille, son trophée avec ses copains, avec ses béquilles. Et c'est le symbole en fait de cette équipe qui était justement unie, liée pour aller ensemble chercher ce titre.
Alors Philippe, on a Robert Pires, le consultant maison M6 RTL, qui est au bout de son téléphone. Bonjour Robert.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Quelle déception pour les Anglais, Robert, que vous connaissez si bien. C'est la nation du foot, c'est la nation qui ne gagne jamais ou presque. Pourtant, ils avaient tout, hein. Ils avaient le public, leur stade, ils ont joué à la maison presque tout le temps. Il y avait quoi, trop de pression?
Non, je pense pas, parce qu'avant d'accéder à la finale, ils avaient quand même fait 5 matchs à domicile. Donc ça, je pense qu'ils avaient su le gérer, mais ils ont été peut-être pris dans l'émotion. C'est vrai que tout le monde attendait que... Harry Kane soulève le trophée, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont tombés sur une très belle équipe italienne. Pour moi, l'une des plus belles, la révélation, j'ai envie de dire même la renaissance de l'Italie par rapport à ce qu'a monté et construit Roberto Mancini. Mais disons que c'est dommage pour l'Angleterre, parce qu'ils avaient fait vraiment tout ce qu'il fallait. Mais bon, malheureusement, ils sont tombés sur plus fort que sur la séance de tir au but.
Est-ce qu'on peut dire, Robert, qu'ils sont trop limités en termes de jeu? Il y avait un tir au but seulement hier soir, seulement 39% de possession de balles. Ils ont progressé, c'est une évidence ces dernières années, mais qu'est-ce qui manque?
Qu'est-ce qui manque? J'ai envie de dire l'expérience sur le dernier match, sur le grand rendez-vous que tout le monde attend. Ce qui est intéressant, c'est que Southgate a construit vraiment une belle équipe. C'est que la fédération anglaise, mais aussi les centres de formation anglais, ont visité, j'ai envie de dire, un peu ce qui se passait en Espagne, en France, pour copier, j'ai envie de dire, pourquoi justement ces nations réussissaient. Et ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement parce que l'Angleterre a changé un petit peu son mode de fonctionnement, sa manière de jouer. On a vu beaucoup de jeunes intégrer cette formation anglaise. Et puis tout simplement, ça me laisse dire que l'Angleterre a peut-être échoué hier face à l'Italie, mais ce qui est certain avec cette équipe, c'est qu'on risque de les voir souvent maintenant.
Mais on va les voir régulièrement. Les supporters italiens, Philippe Sanfourche, ils étaient évidemment très très heureux cette nuit, mais on les entendait ce matin sur RTL dire c'est super l'Euro, mais l'objectif c'est la Coupe du Monde, c'est 2022, c'est le Qatar. Ça veut dire qu'il faudra composer avec eux évidemment dans un an et demi.
Alors il y a forcément une confiance qui va naître de ces 34 matchs hein, désormais sans défaite de l'Italie et donc couronné par ce titre. Après il faut regarder quand même de manière très objective la manière dont est constituée cette équipe. Il y a des très très bons joueurs, il n'y a pas non plus de stars internationales, et notamment devant en attaque il y a des joueurs qui sont un peu légers pour le très haut niveau. Ça marche sur un tournoi, on n'est pas sûr que ça fonctionne sur un deuxième, et surtout à la Coupe du Monde la prochaine qui se déroulera de manière un peu anachronique en plein hiver, il y aura des équipes qui seront mieux préparées physiquement. Et je serais quand même très étonné que des formations avec autant de grands joueurs comme l'équipe de France, comme la Belgique, comme le Portugal ne soient pas au rendez-vous cette fois-ci. Donc ce sera plus dur à mon avis pour l'Italie lors de la Coupe du Monde.
Alors Robert, il était chouette cet Euro, hein. En fait il ne manquait qu'une chose, ce sont les Bleus, les Français. 2022, la Coupe du Monde dans le viseur. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit encore avec Didier Deschamps, confirmé malgré l'échec?
Encore aujourd'hui, déçu et triste de voir l'équipe de France éliminée assez rapidement par nos amis suisses. Je pense que Didier Deschamps est l'homme de la situation. Il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit. En 2018, il nous a permis de décrocher la deuxième étoile. Donc, il sait qu'il a fait certainement des erreurs. Donc, il est grand, il est intelligent, il va s'appuyer sur son staff. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché justement contre les Suisses? Et puis, moi, je crois qu'il faut lui faire confiance. J'ai envie de dire, lui laisser une autre chance qui est justement de gagner, pourquoi pas, la Coupe du Monde au Qatar. Mais en tout cas, je pense que Didier a fait de bonnes choses et il faut lui faire confiance.
Merci à tous les deux. Merci d'avoir été en direct ce matin. Merci, la nuit a été courte. Robert Pires, Philippe Sanfourche, évidemment. Récupérez bien,
bon
Robert.
Retour,
ben. Bon retour à tous les deux, évidemment. M6, vous avez suivi tous les matchs, la finale encore hier soir. Il y avait un super jeu, vous le savez, organisé par M6 et RTL. 150 000 euros pour un téléspectateur, un auditeur. Vous aurez le verdict dans une petite demi-heure. Il y aura tirage au sort en direct chez nous avec un gagnant ou une gagnante. 150 000 euros à la clé. 8h27, bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux. On va sourire avec les grosses têtes juste après ça.
RTL Matin. Toujours avec vous. Stéphane Carpentier.
RTL Matin jusqu'à 9h15.
Fidèle au poste, nos grosses têtes avec le meilleur de la saison, cet après-midi dès 15h30, orchestré bien sûr par Laurent Ruquier.
Mais Laurent, dans le genre, vous connaissez l'histoire du type avec l'armoire Ikea ?
Allez-y.
Non ? Il y a une dame qui va acheter une armoire Ikea et puis elle la monte et puis le truc ne marche pas. Elle se dit, il manque une pièce, elle vérifie le plan trois fois, elle remonte l'armoire, ça tient. Et puis il y a l'autobus qui passe dans la rue, c'est une rue en pavé, ça fait trembler la maison, brum, le truc s'écroule. Elle téléphone, elle n'en peut plus, elle téléphone à Ikea, elle dit, c'est pas possible. Ils envoient un spécialiste qui est très rare. Mais là, ils disent, il y a un vice de fabrication. Le type vient, un truc, l'autobus passe, l'armoire s'écroule. Il vérifie tout, il compte les pièces, etc. Il la rebâtit encore une fois, tram, ça s'écroule chaque fois que l'autobus passe. Et il dit, écoutez, de l'extérieur, je vois rien, mais donc c'est peut-être un truc à l'intérieur, parce que parfois, il faut visser aussi à l'intérieur. Donc, ils remontent tous les deux l'armoire, le mec se met à l'intérieur, et l'armoire tient, et à ce moment-là, le mari rentre dans l'appartement. Et... il veut ranger son manteau, il dit « Ah, t'as acheté une armoire ?» Il ouvre la porte de l'armoire, il voit le mec, et le mec lui dit « Vous n'allez pas me croire, mais j'attends l'autobus. »
Les grosses têtes, régalez-vous, 15h30, 18h et en podcast via l'appli RTL sur vos tablettes et vos smartphones. Louis Baudin, le temps du jour, on arrive à avoir des températures qui baissent.
Oui, on y arrive parce qu'on va être de nouveau sous les nuages, sous les averses, sous les orages, même j'en vois là qui commencent à se développer autour du Massif central. Donc temps très instable de nouveau sur toute la France aujourd'hui ou presque. Il n'y a qu'entre la Côte d'Azur et la Corse où ça restera plus ensoleillé. Bon, il y a quand même quelques petits nuages, je les vois. Mais enfin, ils devraient se dissiper quand même assez rapidement de ce côté-là. D'ailleurs, pas de dissipation. Au contraire, une activité orageuse qui pourrait même se multiplier cet après-midi. Plus fréquente, peut-être, près de la Manche, peut-être également entre les Pyrénées. Et puis surtout entre l'Auvergne et la région Rhône-Alpes où là, c'est les averses les plus importantes que l'on attend. Peut-être quelques risques d'inondation à surveiller. Et puis voilà, les températures en baisse. Bah oui, et quand vous voyez pas le soleil, ça baisse. 18 à 20 degrés sur la Bretagne ou encore près de la Manche, 20 à 23 degrés dans la moitié ouest, 23 à 26 degrés dans l'est avant ces orages, et puis quand même on frôlera les 30 degrés près de la Méditerranée.
Voilà, il sera comme ça demain, après-demain et encore après-demain.
Puis après ça ira un peu mieux.
Et après on croise les doigts, ça ira mieux. Les cartes, les radars de Louis Baudin à 8h30.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut retenir de l'actualité avec Hortense Crépin.
Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée pour faire face à la quatrième vague de l'épidémie et la propagation du variant Delta. Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir à 20h. Intervention que vous pourrez suivre sur RTL avec une édition spéciale. Plusieurs mesures devraient être annoncées, notamment la vaccination obligatoire pour les soignants. Un choix auquel n'est pas favorable Philippe Martinez, invité tout à l'heure sur RTL. Le secrétaire général de la CGT estime qu'obliger les gens, ce n'est pas la bonne solution. It's coming home, la nationale exulte après sa victoire hier en finale de l'Euro de foot face aux Anglais, la deuxième de son histoire. Score final pour les Italiens, 3 tirs au but à 2 après un score d'un partout en prolongation. Et ce matin, le Premier ministre britannique Boris Johnson dénonce lui des insultes racistes ayant visé des joueurs anglais après leur défaite. Puisqu'on parle de football, le chroniqueur Pierre Ménès quitte Canal+, après 12 ans de collaboration. Il était mis sur la touche après des accusations d'agression sexuelle. Un accord financier a été conclu avec la chaîne cryptée. Aux États-Unis, Washington met en garde Cuba contre l'usage de la violence, et cela après les rassemblements de milliers de manifestants dans l'île pour protester contre la dictature. Ils exercent leur droit universel selon le gouvernement américain. Début de la deuxième semaine du Festival de Cannes et la projection aujourd'hui notamment de The French Dispatch de Wes Anderson avec en tête d'affiche Timothée Chalamet. Et puis en cyclisme, toujours le maillot jaune pour Tadej Pogacar sur le Tour de France. Victoire hier de l'américain Sepp Kuss en solitaire sur la 15e étape. C'est repos aujourd'hui sur le peloton.
Jour de repos, mais club Jalabert bien sûr quand même. 18h30 avec Christophe Paco pour tout savoir sur ce Tour de France. Merci à Hortense Crépin.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Et demain, après 18 mois de crise sanitaire, RTL vous propose cet été un regard vers l'avenir avec une touche d'optimisme. Chaque jour, Guillemette Franquet nous offre un entretien sur ce virus qui a bouleversé nos vies et comment préparer la suite. Aujourd'hui, 12 juillet, face à face avec le chanteur Edith de Préto qui partira en tournée cet automne.
Bonjour Edith Préto.
Salut.
Comment allez-vous ?
Bah, très bien, merci. Et vous?
Bah, moi, très bien.
Ok.
Vous la sentez comment, la rentrée musicale?
La rentrée musicale en furie. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses après un an et demi de confinement. Les choses sont derrière nous et on a envie de justement de pouvoir un peu voir d'autres choses, ressentir de nouvelles choses. Ouais.
Vous avez envie de ressentir quoi?
Ah, de l'amour, de la délicatesse, de la passion et aussi envie de vivre.
Vous avez le sentiment que vous avez un peu moins vécu pendant cette année?
Pas moins vécu, mais c'est vrai que c'était un peu maussade, un peu plus triste, un peu plus gris.
Est-ce que ça vous a inspiré ce qu'on vient de vivre? Est-ce que d'une certaine manière, vous avez envie d'écrire là-dessus peut-être?
Ouais, je pense que de fait, ça va s'inscrire un peu dans la musique, mais je pense qu'il faut aussi voir ce que sera la vie d'après et un peu voir ce que potentiellement on va ressentir ensuite et pas rester sur ce Covid.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? C'était quoi? C'était les concerts? C'était d'enregistrer tranquillement?
Ce qui m'a manqué, c'est les concerts, véritablement. C'est de pouvoir monter sur scène, de pouvoir voir les gens.
Comment ça va, l'Olympia?
De pouvoir ressentir les gens. Moi, j'ai sorti mon deuxième album pendant cette période, donc c'était en mars, fin mars. Et je vous avoue que sans ressentir le public, sans ressentir le retour des gens, ça a été très compliqué.
Si vous deviez qualifier le Covid, vous pensez à quel mot, là, tout de suite?
Je pense à atroce, comme ça.
Pourquoi atroce?
Bah, parce que c'était compliqué, quoi. Il a fallu se redéfinir, se réinventer constamment, tout changeait, tous les plannings changeaient constamment. Donc ça changeait énormément le ressenti global, je trouvais. Donc comment sortir de la musique dans ces là où le ressenti général est non palpable, c'est compliqué.
Ça vous a donné envie de faire des choses nouvelles, des choses complètement différentes?
Oui, de se redéfinir, carrément.
Vous avez envie de quoi de neuf?
Je dis pas.
C'est un secret.
Mais faire d'autres choses que de la musique, continuer la musique bien sûr, mais aussi ouvrir le champ des possibles. Mais je pourrais pas dire encore parce que c'est encore en des redéfinitions.
Moi je pense à comédien comme ça, mais peut-être que je me trompe.
Non, mais la radio, j'adore la radio, j'adore le cinéma, donc j'ai envie de faire d'autres choses bien sûr.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier qu'on aura dans le monde de demain?
Wow, c'est une question à 1000 euros. C'est, je sais pas. Je pense qu'on a à être confronté comme ça, à un repli sur soi, à être enfermé comme ça pendant très longtemps, et ça nous permet de relativiser en fait notre existence un peu quoi. Et ça te permet de dire que, enfin, juste un verre, faut juste savoir le kiffer. Enfin, je trouve que juste par exemple l'exemple de la terrasse. Aujourd'hui, quand je vais en terrasse et que je vais prendre un café, je me sens chanceux.
Est-ce que, en tant que musicien ou en tant qu'amateur de musique, est-ce qu'il y a un son ou une musique qui vous a accompagné pendant le Covid, qui a illuminé votre journée, qui vous a permis de respirer, de vous inspirer?
Je me suis refait Starmania. Et je me rappelle que ça, pendant le deuxième confinement, Starmania, ça m'a grave touché. Je sais pas pourquoi, parce que c'était des choses que je connaissais depuis petit. Et je trouve que c'est hyper bien écrit.
Quel titre de Starmania?
Monopolis.
Merci beaucoup, Edith Pritz.
Merci beaucoup.
Et demain, entretien du jour signé Guillemette Franquet avec Eddie Despréteaux dans le deuxième album studio À tous les bâtards est disponible depuis le mois de mars dernier. Et demain, à retrouver en podcast sur notre site, notre appli RTL. Dans un instant, nous allons sur la croisette pour la version été de Laissez-vous tenter. Vous restez bien là, s'il vous plaît. À tout de suite.